sujet qui est à la fois très évident, très immédiat, puisque régulièrement on fait le lien entre révolution et protestantisme, et qui a accusé les protestants d'avoir utilisé, suscité la révolution. Donc il y a là un enjeu important, et je pense que c'est de là qu'il faudra partir, avec une réflexion immédiate aussi, parce que c'est quelque chose, quand von Belloir m'a proposé d'intervenir ici, j'avoue quand même que j'ai été un petit peu inquiet, parce que sur cette question des rapports entre protestantisme et révolution, il n'y a, à ma connaissance, pas d'ouvrage, de travaux synthétiques sur la question. Ça peut paraître un peu étonnant. Je dirais même sur les protestants de l'Ouest, le dernier ouvrage de synthèse, mais qui est quand même un ouvrage assez... j'aime bien, hein, c'est pas ça du tout, mais qui est quand même extrêmement synthétique. C'est un livre de 60 pages. Hein. Voilà. Et des travaux qui sont un peu plus précis sur l'étude des protestants pendant la Révolution, ça remonte aux années 1950-1960, quand le pasteur Roman Musculus travaillait sur la question. Donc il y a, bizarrement, et je dirais qu'on peut prendre ça à notre charge, l'université, la recherche n'a pas véritablement suscité de travaux sur la question, ce qui peut paraître quelque part un peu étonnant. Donc c'est de là dont il faut partir et pour essayer de présenter un tableau. Alors, un tableau compliqué, vous allez au complexe, on va essayer de le faire simple, mais la complexité de la chose est véritable. Parce que ce qui est en jeu, c'est bien sûr d'arriver à comprendre comment la Révolution française va donner, outre la reconnaissance qui avait déjà été octroyée par le roi en 1787, mais va donner aux protestants et au protestantisme une reconnaissance véritable en France. Et c'est de cette question-là que je voudrais partir, mais pour comprendre vraiment cette question qui est une cassure dans l'histoire de France, il faut remonter, et c'est peut-être là l'explication du lapsus de Franck Belloir tout à l'heure, à l'édit de Nantes, c'est-à-dire précisément à cette sortie des guerres de religion, donc à peu près donc à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, quand au sortir des guerres de religion, il y a eu cette espèce de volonté de faire cohabiter ces deux groupes qui s'étaient déchirés dans une succession de guerres, et dans une succession de guerres qui avait beaucoup impliqué l'Ouest dans lequel nous vivons. Et il me semble que c'est vraiment de là dont il faut partir, parce que si la Vendée apparaît en 1793 et depuis comme la terre du catholicisme royalisme, d'une tradition qui dure, reste que précisément cette guerre de Vendée s'articule malgré tout sur la suite des guerres de religion qui ont été extraordinairement violents dans ce qui est aujourd'hui la Vendée départementale, et qui des guerres aussi qui ont été marquées après l'édit de Nantes par la grande répression qui a frappé les protestants, d'abord dans l'immédiat, dans les années 1620, avec l'épisode du siège de La Rochelle auquel tout le monde pense automatiquement. Mais il me semble que peut-être le plus grave aura été la grande bataille de l'île de Ré en 1622, quand le roi de France en personne avait organisé là une reprise de l'île de Ré, donc vraiment sur la côte vendéenne, au prix de la tuerie de toute une armée protestante qui s'était rendue et qui avait profondément marqué les mémoires, et puis marqué aussi les antagonismes entre catholiques et protestants. À cette époque-là, dans le Poitou, ce qu'on estime être la démographie protestante, c'est à peu près 200 000 personnes qui peuvent être rattachées au protestantisme dans l'ensemble du Poitou. Et donc un protestantisme à la fois rural, urbain et nobiliaire. C'est un protestantisme assez particulier qui est finalement très actif et très original par rapport à d'autres terres du protestantisme national. Et ce qui va se produire, c'est que dans le Poitou, c'est que là, dans les années qui vont suivre, et notamment à partir du moment de la grande répression organisée par Louis XIV, avec qui aboutira à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, c'est aussi cette mise en place des dragonnades, qui donc va chasser les protestants les plus convaincus qui vont partir dans tous les pays d'Europe, mais qui vont dragonnades aussi, qui auront comme effet de provoquer des conversions, c'est-à-dire des protestants qui deviennent les nouveaux convertis, tout en gardant pour une partie d'entre eux des attaches familiales au protestantisme, mais dans un climat-là qui est d'une très grande violence. Et si on le dit autrement, même si les dragonnades n'ont pas eu l'effet dévastateur de la guerre des Camisards, ces dragonnades ont été, de ce point de vue-là, des pratiques d'État qu'on va retrouver, toute proportion gardée, quand la France révolutionnaire organisera en 1793-1794 les persécutions contre les brigands catholiques dont elle voudra se débarrasser. Donc il y a quelque chose là qui marque profondément les mémoires et qui est certainement là dans cette... dans ces traditions de guerre et d'opposition sociale qu'on va retrouver ici, même si c'est souterrain, même si ça ne réapparaîtra pas forcément facilement, mais dont on retrouvera toujours les traces. Bon, il faudra essayer de comprendre ce qui se passe au moment de la Révolution. Ce qui est aussi à peu près, malgré tout, évident, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, alors que les persécutions contre les protestants dans le midi de la France vont durer très longtemps et qu'il va y avoir encore des protestants enfermés pour cause de sédition jusqu'dans les années 1770, donc c'est 20 ans avant la Révolution, c'est extraordinairement proche de la Révolution, la mémoire n'est pas perdue. Ce qui semble apparent dans l'Ouest, c'est une espèce d'accommodement, en définitive, dans la dernière moitié du XVIIIe siècle, où l'on constate la présence de synodes du désert dans le Poitou et l'abandon des persécutions. Ça ne veut pas dire que la cohabitation se fasse bien, mais ça veut dire qu'on est sorti là des oppositions dramatiques qui avaient existé auparavant. Et cette présence-là explique bien sûr l'importance de l'ouverture de la Révolution qui, d'un seul coup, en définitive, à partir de juillet 1789, semble provoquer une rupture avec la monarchie catholique traditionnelle, puisque la Déclaration des droits de l'homme, vous le savez, se place sous les auspices de l'être suprême. Et on a beaucoup glosé sur ce changement important et on a souvent incriminé les pasteurs protestants, dont celui qui est en quelque sorte le plus connu à ce moment-là, qui est député aux États généraux, Rabaut Saint-Étienne, d'avoir été un des aspirateurs de cette mutation qui serait là un premier coup de donner à l'unité entre le catholicisme et la monarchie traditionnelle. Bon. Alors, si l'on essaie de le dire autrement, malgré tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu, à partir de 1787, l'édit de tolérance qui a été accordé par le roi Louis XVI, dont, traditionnellement, on va dire toujours que cet édit de tolérance qui reconnaît l'état civil aux protestants n'est qu'un pis-aller, puisque le protestantisme n'est pas reconnu comme culte et qu'il n'y a pas l'égalité, bien sûr, entre le protestantisme et le catholicisme. Il me semble cependant qu'il faut bien voir que dès 1787, le pas avait été franchi par Louis XVI d'une ouverture, d'une reconnaissance de la présence des protestants dans le pays, ce qui jusque-là était tout simplement, au moins légalement, pas fait du tout. Bon. Ce qui s'est passé là, c'est, me semble-t-il, la reconnaissance d'un état de fait, la reconnaissance que cette monarchie de Louis XVI, qui est toujours considérée comme une monarchie absolue, autoritaire et fermée, avait malgré tout soutenu les protestants révoltés à Genève, avait accueilli les protestants hollandais lorsqu'ils avaient été chassés par l'échec de leur révolution dans les Pays-Bas. Donc il y avait déjà un courant qui était en quelque sorte de tolérance et de reconnaissance qui était déjà instauré et présent. Et je crois qu'il faut bien comprendre que de ce point de vue-là, il n'y a pas, je dirais, d'identité a priori entre les idées de progrès et les opinions religieuses, puisque finalement ce monarque absolu qu'est Louis XVI avait défendu, soutenu, accueilli des protestants qui étaient en quelque sorte les protagonistes de la révolution à venir. Et les choses étaient toujours, sont toujours beaucoup plus compliquées qu'on ne croit et qu'on ne pense. Bon. Donc il y a quelque chose là qui se met en place, que la révolution continue plus qu'elle n'innove, et lorsque il faut revenir sur cette déclaration des droits de l'homme et le recours à l'être suprême, rappelez que le recours à l'être suprême est tellement vague qu'il est bien dangereux de vouloir l'assigner à une religion ou à une autre. Est-ce que ça renvoie à des courants déistes? Est-ce que ça renvoie à certains courants catholiques? Dont on est là dans quelque chose qui est extraordinairement flou, qu'on retrouvera en quelque sorte 5 ans plus tard, quand Robespierre va instituer la fête de l'être suprême et de la nature. Il ne faut jamais oublier que l'ensemble est lié, qui montre bien donc, cette grande indécision sur le sens précis de cette innovation, sauf à dire qu'effectivement, la question religieuse a changé de sens. A changé de sens, mais ranimé les tensions. La déclaration des droits de l'homme a posé immédiatement la question du rapport entre la monarchie et le catholicisme. Fallait-il que l'Église catholique demeure la seule Église officielle de France? C'est quand même ça qui va être posé, et c'est le début là du divorce entre une partie de la catholicité et de la révolution de la monarchie. Jusqu'en 1792, le roi est toujours présent, et même déjà à ce moment-là, une partie des catholiques ne refuse cette ouverture possible. Alors l'ouverture va être extraordinairement lente, puisque la liberté du culte n'arrive en définitive qu'en 1791, inscrite dans la Constitution, c'est-à-dire qu'à partir de 1791, après que la religion catholique ait cessé d'être la religion officielle, le protestantisme peut enfin avoir des temples reconnus. Nous rappelons quand même, parce qu'il ne faudrait jamais oublier ça, que les protestants avaient des chapelles privées, avaient des chapelles de princes étrangers, il y avait des temples, mais qui n'étaient pas reconnus comme temples appartenant à une religion autonome française, et donc il y avait bien des exercices du culte qui se pratiquaient, mais pas dans cette liberté accordée à égalité entre catholiques et protestants. Alors ça permet de comprendre qu'il y a eu cette entrée en quelque sorte en politique d'un certain nombre de protestants qui sont favorables à la révolution. Rabaut Saint-Étienne, je le disais tout à l'heure, parmi les révolutionnaires les plus importants, il y en a au moins 2 qu'il faut citer, c'est Barnave, donc qui est quand même une des grandes figures de la première partie de la révolution. Et puis il y en a un autre aussi dont les origines protestantes sont absolument indéniables, c'est Barère, même si, pour dire la vérité, je ne vois pas trop en quoi la politique qu'il va mener est liée à des convictions religieuses. Mais donc il y a là des entrées de protestants. Alors, est-ce qualité Non, en définitive. C'est ça qui me semble aussi frappant à dire, même s'il va y avoir d'emblée 6 pasteurs qui vont être élus en 1789, mais qui vont finalement faire, à ma connaissance, peu de cas de leur appartenance à l'Église protestante et qui vont développer au contraire des attitudes de renforcement de l'État, de volonté d'unifier les administrations, l'école, de créer les archives nationales. Donc un grand courant là d'organisation et d'administration sans que ça puisse être marqué par des positions doctrinales ou idéologiques qui sembleraient discriminantes. Cette position-là, malgré tout, bute pour moi sur deux aspects. Le premier aspect, c'est que si les protestants élus font, me semble-t-il, je dirais comme ça, un peu profil bas, finalement, ne sont pas très militants, les querelles entre catholiques et protestants vont être ranimées autour toutes les possibilités que la Révolution donne dans les élections municipales et dans les élections, dans les élections administratives. Et ça expliquera, dès 1780, fin 89 et surtout en 1790, les extraordinaires oppositions armées qu'il va y avoir dans tout le midi de la France, et qui sont là vraiment considérables, puisqu'on voit se constituer des gardes nationales dans toute la vallée du Rhône et jusqu'à Montauban, même vers Bordeaux. Certaines gardes nationales sont catholiques, d'autres gardes nationales sont protestantes, et le comble de tout ça, bien sûr, c'est les deux grandes bagarres qui sont bien connues de mai-juin 1790 à Montauban et à Nîmes. Et Nîmes, c'est une lutte à mort entre, alors c'est bien ça le problème, une bourgeoisie protestante et une aristocratie, pour faire bref, plutôt catholique, qui s'appuie sur le petit peuple des campagnes, hostile à ces bourgeois protestants qui tiennent le commerce local. Le résultat à Nîmes, c'est 300 morts en l'espace de 3 jours, ce qu'on oublie régulièrement, et qui est, en quelque sorte, la bagarre la plus importante de toute une série d'opposition qui ravage vraiment toute la vallée du Rhône et qui crée des oppositions extrêmement virulentes. Des oppositions virulentes qu'il ne faudrait quand même pas considérer comme trop, d'une façon trop simpliste. Parce que l'identité protestant-révolutionnaire n'est pas si vraie que ça. Ce qui va se produire, c'est que si, effectivement, les catholiques les plus militants, qui vont créer les camps de Jalès, qui vont partir en émigration, qui vont ensuite vraiment faire partie des troupes émigrées, comme on disait à l'époque, contre-révolutionnaires, ne vont jamais vouloir accepter la présence des protestants, c'est les protestants majoritairement qui sont rentrés dans les administrations révolutionnaires au niveau local ou au niveau national, sont des gens qui vont se retrouver, même si les mots sont toujours un peu embêtants à employer comme ça, dans des camps révolutionnaires qu'on dira modérés. Ils vont être des feuillants, ils vont être des gens qui refuseront les mesures les plus radicales. Bon, ça va être le cas de Barnave, qui sera ensuite guillotiné pour cette raison-là. Mais en 1793, même s'ils vont accepter, et la Convention, et se résoudre à la mort du roi, ce sont aussi pour l'essentiel d'entre eux, de ces élus, des gens qui vont se retrouver du côté des Girondins, à l'exception de quelques-uns, dont on parlera tout à l'heure, qui, eux, vont se ranger du côté des Montagnards. Si bien qu'il va y avoir là quelque chose qui est un autre clivage qui intervient dans cette histoire des liens entre révolution et protestantisme, c'est-à-dire que les protestants les plus visibles sont des gens qui finalement se situent dans des classes bourgeoises qui sont réticents à toute alliance avec la sans-culotterie et qui vont en payer le prix, puisqu'il va y avoir un certain nombre de gens, dont Rabault-Saint-Étienne, qui vont être guillotinés, je dirais pour ces raisons-là, hein, Girondins, et impliqués dans ce qu'on pourrait dire, d'une certaine façon, lutte sociale. Alors, lutte sociale, quand je dis ça, je n'ai pas l'impression d'exagérer, puisque une partie de ces protestants bourgeois vont être aussi la cible de bandes noires, notamment dans le Midi, qui leur reprocheront effectivement de participer à cette bourgeoisie modérément révolutionnaire, et qu'un certain nombre de ces protestants vont être guillotinés pour des raisons qui sont idéologiques plus que religieuses. Marquant là les familles. L'exemple que j'ai bien sûr en tête, c'est l'exemple du père de Guizot, le futur ministre de la monarchie de Juillet, exécuté, quoique protestant, mais participant précisément de cette bourgeoisie hostile à la révolution, montagnarde, et considérée comme, en quelque sorte, comme fédéraliste. Alors, ça permet de voir à quel point les relations entre protestantisme et révolution n'ont vraiment plus rien à voir avec ce qui se produit au même moment dans les relations entre catholicisme et protestantisme, parce que ceux qui étaient a priori des alliés sont en train de devenir sinon des ennemis, tout au moins des gens dont il faudra se méfier et éventuellement réprimer, alors que là, l'opposition avec le catholicisme, entre catholicisme militant et puis athéisme et déchristianisateur militant, auront fait rentrer les relations entre catholiques et révolutionnaires dans un autre registre, beaucoup plus dramatique et beaucoup plus grave. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de persécution, et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu l'obligation d'un silence des églises protestantes à partir de 1793-1794, quand la vague de déchristianisation, qui ne concerne pas toute la Révolution, on pourra peut-être en reparler, mais qui va jouer un rôle important quand même, et notamment dans l'Ouest, vont toucher le pays. Mais il y a, même s'il n'y a pas de persécution, comme l'Église catholique a pu la supporter, il y aura cette mise à l'écart, cette espèce de silence, ce repli des protestants sur leur famille, et un silence et repli qui va durer de 1794 à 1795, quand en 1795 s'établit pour de bon la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire que là, l'État ne subventionne plus aucun culte. Au passage, je rappelle que la liberté des cultes avait été garantie par la loi dès le 6 décembre 1793. Ça peut paraître éventuellement contradictoire avec ce qui se passe, mais cette liberté des cultes avait été au moins sur le papier inscrite. Bon, même si dans les faits, les choses étaient bien, bien plus compliquées. Mais à partir de 1795, les cultes sont rétablis, et les cultes sont rétablis sur un pays qui est profondément divisé, puisque à partir de 1795, si on essaie, et il me semble qu'il faut l'avoir en tête, de faire un tableau rapide mais assez global de l'ensemble de l'offre religieuse, si vous me permettez de le dire comme ça, il y a bien sûr à partir de 1795 les deux églises catholiques, l'église traditionnelle romaine, et mais à côté l'église constitutionnelle. Il y aura les églises protestantes qui sont à nouveau permises après ce passage du silence et un certain nombre de pasteurs exécutés. Et puis, à côté de ça, il y a les cultes civiques et il y a la théophilanthropie. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est rentré là dans une offre religieuse extraordinairement ouverte jusqu'au moment du Concordat, c'est-à-dire à partir de 1801-1803, et puis progressivement les réorganisations de l'ensemble des églises par Napoléon, où il va y avoir progressivement une réorganisation sous le contrôle de Bonaparte et de Bonaparte-Napoléon pour que les églises soient véritablement là, reliées à l'administration et contrôlées. Ça sera vrai, bien sûr, du catholicisme regroupé, ça sera vrai des églises protestantes, ça sera vrai de la religion juive. Donc il y a là un courant qui se remet en place après ce passage de la Révolution. Alors, pour les 25 minutes sont quasiment écoulées, j'ai insisté beaucoup sur des faits et il me semble nécessaire de terminer sur deux points. Le premier point, c'est que dans l'Ouest, si les protestants ont été présents, si les protestants dans les guerres de Vendée sont finalement relativement absents. Grosso modo, on ne recense finalement que 4 protestants qui auraient participé aux guerres de Vendée du côté des Vendéens. Quelques familles sont parties aussi en émigration, extrêmement peu. Et quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé pendant les guerres de Vendée autour des foyers protestants, qui sont quand même présents et bien connus, on ne voit pas de persécution, d'animosité véritable. En revanche, moi je suis beaucoup plus frappé par le fait que les massacres, qui pour moi sont des massacres emblématiques de Machecoul au sud de Nantes, a été commis par des paysans catholiques marqués par une religiosité traditionnelle, se heurtant à des bourgeois de Machecoul marqués, eux, par une religiosité catholique jansénisante. C'est-à-dire que c'est cette rivalité entre catholicisme de Grignon de Montfort, pour faire bref, et catholicisme jansénisant, qui a certainement été un des clivages importants dans les oppositions des urbains et des ruraux de l'Ouest, le protestantisme n'apparaissant pas véritablement dans cette querelle. Le pasteur Roman Musculus fait même remarquer, j'avoue que je le cite plus que je ne pourrais pas donner des éléments pour le prouver ou l'improuver, pour Roman Musculus, il y aurait eu de la part d'un certain nombre de nobles engagés du côté de la Vendée, la volonté de montrer qu'ils étaient bien catholiques, alors qu'ils descendaient de familles de nouveaux convertis. La noblesse vendéenne s'étant ralliée au catholicisme, un siècle plus tard, les jeunes nobles avaient besoin de montrer absolument leur appartenance au catholicisme. La thèse de Roman Musculus peut tenir, on ne la voit pas dans les textes, c'est difficile à dire. En tous les cas, ce qui me semble aussi, donc on est dans cette situation qui est compliquée, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, qui ne permet pas de trancher les grands débats qui vont être évoqués au XIXe siècle, montrant le protestantisme donnant la main aux idées révolutionnaires pour anéantir la monarchie millénaire en France. Bon, ça sera une des thèses de Quinet de dire que effectivement l'idée révolutionnaire avait été précédée par les idées du protestantisme. Il me semble que précisément la présence de ces bourgeois protestants exécutés parce que de révolutionnaires trop modérés ne va pas du tout dans ce sens-là. Et en outre, et puis il faudrait vraiment garder ça en tête, c'est qu'on est bien dans cette histoire franco-française. Parce que si on sort de la France et si on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans les rapports entre catholicisme et protestantisme en Europe, on se rend compte que les idées du progrès et éventuellement des idées révolutionnaires ont été portées hors de France éventuellement par des catholiques ça c'est vrai avec ce qu'on appelle les lumières catholiques allemandes, l'Aufklärung catholique, et puis dans un certain nombre de cas, ceux qui étaient hostiles à toute tolérance, et c'est vrai dans les Pays-Bas, c'était les protestants qui ne voulaient absolument pas accorder la liberté du culte aux catholiques qui y habitaient sur place. Donc l'idée de vouloir tout cliver, d'organiser entre deux systèmes, révolution contre révolution, catholiques et protestants, c'est vrai certainement au moment de la Restauration, il y aura cette espèce de grande réaffirmation de la France catholique. Dans les faits et dans l'histoire, les choses auront été plus compliquées et il est nécessaire de garder cette complexité en tête. Voilà, je vous remercie d'avoir été de m'avoir écouté d'une façon un peu trop longue. On va rentrer dans une chaire beaucoup plus pratique, précise, avec des exemples.
Alors, pour ma part, j'aimerais aborder cette séquence chronologique que constitue la Révolution française en ciblant plus spécifiquement sur certains individus qui appartiennent au protestantisme, et ces individus, ce sont des pasteurs. Et pour le faire, je verrai cet élément donc en trois points. Tout d'abord, en voyant comment les pasteurs ont pu parler de politique en chair, c'est-à-dire dans leur prédication, ce qui paraît pas habituel, hein, mais ils l'ont fait. Ensuite, je verrai comment ils ont pu prendre la parole à d'autres moments, et notamment dans un autre environnement de l'éloquence qui est très important au moment de la Révolution française, c'est-à-dire la tribune politique et notamment donc les assemblées révolutionnaires. Et j'évoquerai enfin certaines carrières pastorales, et j'évoquerai plus particulièrement celle d'un pasteur dont il a été rapidement question tout à l'heure, c'est André Jambon Saint-André, qui a été pasteur notamment à Montauban. Alors, pour débuter, lorsqu'on parle de pasteur, évidemment, on l'imagine en chair. Hein, vous savez à quel point la prédication protestante est quelque chose d'essentiel dans la vie religieuse des huguenots, des protestants en France, mais aussi ailleurs. Donc, durant cette période révolutionnaire, Jean-Clément Martin en a rappelé les grandes étapes chronologiques. Les pasteurs n'ont pas toujours pu prendre la parole. Hein. Il a fallu évidemment que le culte soit reconnu, qu'il ne soit pas réinterdit. Et à ce propos, la Révolution française a véritablement réussi à faire taire les pasteurs pendant quelques années, en tout cas là où la monarchie absolue n'avait pas réussi, hein, puisque au moment de la révocation de l'édit de Nantes, les prophètes, puis les prédicants ont immédiatement repris la parole, alors qu'en Révolution française, les pasteurs se sont tus, en tout cas en chair, des années 1793 jusqu'aux années 1797. Hein, le culte commence effectivement à reprendre plutôt en ville qu'à la campagne. Mais donc, comment est-ce que ces pasteurs ont pu aborder les grands bouleversements politiques qui accompagnaient finalement la vie de leurs paroissiens ? Hein, puisque un pasteur a quand même intérêt à être un petit peu connecté à l'environnement dans lequel il est, en tout cas pour espérer arriver à édifier complètement les fidèles. Alors combien sont-ils ces pasteurs, avant de voir comment ils parlaient de la Révolution française ? On estime qu'on a à peu près 300 pasteurs qui ont vécu cette période révolutionnaire, si on inclut évidemment les pasteurs de la zone alsacienne, hein, qui constitue le gros du corpus pastoral de l'époque. Donc, en chair, que font-ils ces pasteurs ? Eh bien, dans un premier temps évident, le sermon a un rôle pédagogique pour former l'individu, pour former le croyant, le chrétien, l'édifier, lui rappeler les fondements de la parole de Dieu et éventuellement les prolongations qu'il peut y avoir, les prolongements qu'il peut y avoir dans la vie quotidienne. Mais compte tenu des circonstances très particulières qui sont celles de la Révolution française, eh bien, les pasteurs vont prendre la parole également sur des choses qui peuvent paraître très éloignées, des choses du religieux, des choses, on va dire, plutôt profanes. Et à l'occasion de certains événements particuliers, eh bien, ils vont parler de politique. Alors, je voudrais prendre deux exemples pour vous montrer comment les pasteurs articulent en chair ce qui relève des événements politiques qu'ils sont en train de vivre et, sans jamais perdre de vue, leur rôle de pasteur, c'est-à-dire de messager et de pédagogue en matière religieuse. Alors, le premier cas est celui de la prestation de serment. Alors, évidemment, ça a été rappelé par Jean-Clément Martin, depuis 1787, les protestants commencent à rentrer progressivement dans la vie sociale française, hein, ils ne sont plus morts civilement, mais évidemment, la Révolution française les réintroduit progressivement, les réintègre progressivement à la nation. Et en tant que citoyens, ils se doivent de participer à la même gestuelle de fidélité, de soumission aux autorités politiques. Et le 14 décembre 1789, on a une loi qui est votée, qui réorganise les communes du royaume et qui établit la pratique du scrutin. Et les citoyens sont appelés, avant, les citoyens actifs sont appelés avant de voter, à prêter un serment. Et un pasteur, le pasteur Blachon, Jacques-Antoine Blachon, qui est pasteur alors à Bordeaux, va en février 1790, avant que soit mise effectivement en place cette loi, hein, c'est-à-dire qu'il y ait un vote, eh bien, il va aborder cette question très politique, vous voyez, de la prestation du serment à l'occasion des futures élections municipales, pour bien prêcher un serment intitulé « Discours du roi », un serment relatif au discours du roi à l'Assemblée et au serment des citoyens actifs. Donc, vous voyez, c'est pas du tout une péricope biblique hein, qui sert d'accroche pour développer le serment, c'est véritablement ce qui est en train de se dérouler dans la vie politique de la nation. Alors, la visée du pasteur, elle est avant tout comportementale, éducative, mais vous allez voir qu'il articule le politique et le religieux. Alors, évidemment, au début du sermon, il sent bien que son approche en chair est un petit peu ambiguë, et il explique que, en tant que pasteur, il se doit d'informer ses fidèles des dangers, ou en tout cas de la manière dont il faut comprendre les nouveaux gestes civiques qui sont en train d'être mis en place dans la nation. Alors, je cite le pasteur, « Parce que nous sommes sans cesse entourés des pièges et de tentations, parce que le péché se présente à nous de toutes parts, nous sommes obligés à une vigilance continuelle pour mettre en sûreté notre piété et notre vertu. Et les pasteurs, sentinelles en Israël, peuvent à peine suffire à avertir leurs troupeaux des dangers qui les menacent. » Donc vous voyez, ici, on a véritablement un extrait qui explique que le pasteur doit alerter, doit faire en sorte que ses fidèles, qui sont aussi ici des citoyens, doivent être en alerte par rapport à ce que l'on leur demande et des dangers potentiels qui peuvent en résulter. Alors, évidemment, on est face à des circonstances exceptionnelles. Hein, la Révolution française introduit véritablement une nouvelle pratique, un nouveau rapport à la politique, à la prise de décision, et cette nouveauté fait que le pasteur, qui est aussi quelqu'un qui apprend à ses fidèles, se sent investi d'une nécessité à parler sur ces thématiques très, très profanes. Il nous dit, je cite le pasteur, « À plus forte raison, quand des circonstances extraordinaires nous mettent dans une position nouvelle et inattendue, devons-nous user de la plus grande circonspection pour discerner nos devoirs, en connaître les étendues et les bornes. C'est alors que les pasteurs sont tenus, plus que jamais, de réveiller les consciences des fidèles afin qu'ils écoutent sa voix lorsque l'agitation du moment les expose à ne pas l'entendre. » Alors évidemment, les agitations du moment, on comprend bien. Hein, je ne me rappelle pas tout ce qui se passe dans cette seconde moitié de l'année 1789, mais il y a énormément, je veux dire, le problème de l'histoire de la Révolution, c'est que presque tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. Hein, donc c'est une agitation constante. Il y a aussi évidemment des formidables organes de presse qui se développent, qui font que les citoyens sont de plus en plus informés, et donc ils peuvent parfois ne plus savoir exactement ce qu'il faut faire. Alors le pasteur en révolution, vous voyez, apparaît comme une sentinelle, comme un réveilleur, et on a véritablement un pasteur là qui va expliquer ce qu'est le serment civique, ce qu'il faut faire. Il va citer dans son sermon les extraits du discours du roi à l'Assemblée. Donc on a véritablement une œuvre civique qui est ici celle d'un pasteur en chair. Mais en même temps, c'est un pasteur, donc il va chercher ce qui, dans le texte biblique, pourrait lui permettre de raccrocher son discours à une dimension religieuse. Et il le fait en adossant aussi sa prise de parole au troisième commandement du Décalogue, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » De fait, prêter serment devant la nation, c'est ne pas oublier aussi qu'on ne peut pas prêter serment n'importe comment. Donc il y a véritablement un objet civique ici qui sert à rappeler au pasteur que les protestants ne doivent pas oublier aussi quel est le but ultime, c'est-à-dire la loi ultime, la loi première à respecter, qui est celle évidemment de la Bible. Alors, en second exemple sur lequel il est possible de s'appuyer pour montrer que les pasteurs évoquent la révolution en chair, est celui de la manière dont les pasteurs vont aborder un thème, celui de la liberté. On parle beaucoup, évidemment, de la liberté acquise, des libertés acquises grâce à la Révolution française, que ces libertés soient individuelles, mais aussi collectives, civiques, citoyennes, dans tous les sens du terme. Donc les orateurs protestants rappellent dans leur prédication l'importance d'une liberté, qui est celle de la liberté de culte. On en a parlé tout à l'heure, hein. C'est véritablement quelque chose qu'ils attendent évidemment depuis la révocation de l'édit de Nantes, qu'ils espèrent dans les années 1780, qu'ils désespèrent de ne pas voir apparaître dans l'édit de 1787 dit de tolérance, et ils l'ont enfin acquise grâce au titre premier de la déclaration de la Constitution de septembre 1791. Et par exemple, le pasteur Paul-Henri Marron, qui prononce à Paris un sermon à l'occasion de la promulgation de la Constitution, né en 91 donc, l'adosse sur Jean 8:32, « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre », eh bien, pour le pasteur, on voit bien à quel point cette première constitution française est conçue comme le triomphe de la vérité et de la liberté. Et le ministre parisien va expliquer immédiatement à son auditoire, je le cite, « Les deux grands fléaux de la société sont l'ignorance et l'esclavage. Et la Providence, par les progrès des Lumières, a aboli au milieu de nous tous les genres d'oppression sous lesquels nous gémissions et a établi à leur place le régime salutaire de la liberté. » Donc, on le voit, il y a clairement, dans cette révolution en marche, qui ici s'exprime par le biais d'une constitution, pas n'importe laquelle, c'est la première constitution française, le triomphe de la liberté, et le pasteur capte, si vous voulez, cette liberté pour rappeler à quel point elle est fondamentale et importante pour tous, mais aussi symboliquement pour tous les protestants qui l'ont tant de fois attendu. Mais évidemment, le pasteur, de la même manière que pour le serment, parce qu'il est un pasteur, va utiliser cette thématique de la liberté, cette fois-ci, pour expliquer que la liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi. La liberté, ce n'est pas la licence. Et beaucoup de pasteurs, toute cette thématique de la liberté acquise, des libertés acquises, vont en profiter pour rappeler, si vous voulez, des aspects qu'on rassemblerait volontiers sous le terme d'une morale chrétienne, hein, qui fait que la liberté, ce n'est pas faire n'importe quoi. Alors, je donnerai un autre exemple, le pasteur Pierre-Louis Dugas, qui va prononcer un sermon expliquant que la licence n'a d'autre règle que la volonté et les passions de chacun. Elle légitime l'oppression du plus fort sur le plus faible. Donc on voit bien, évidemment, ici, qu'en définissant la licence comme étant l'oppression du plus fort sur le plus faible, ça renvoie à quoi ? Eh bien, ça renvoie à ce que, politiquement, on cherche à combattre, c'est-à-dire l'oppression du roi, du monarque absolu de droit divin, contre les plus faibles, pour faire simple, là encore, la population, les tiers états, disons-le, politiquement. Donc, ces pasteurs, vous le voyez, n'hésitent pas à s'approprier finalement ces événements de la Révolution, ces principes aussi qui se mettent en place et que nous connaissons toujours puisqu'ils sont au fondement même du système républicain français, pour bien sûr en parler, parce qu'ils se sentent investis d'une mission qui dépasse largement la sphère religieuse, donc ils en parlent à leur auditoire, mais en même temps, ils en profitent aussi pour constamment l'adosser à une dimension religieuse. Alors, de manière générale, et ce sera le dernier point de cette première partie que je vais voir avec vous, on peut considérer que, en tout cas pour la plupart des sermons que j'ai pu lire sur les années 1789, 92, 93, parce qu'après, comme je vous l'ai dit, il n'y en a plus trop, il n'y en a plus du tout même, eh bien, on se rend compte que les pasteurs qui ont parlé de politique en chair l'ont généralement fait en présentant positivement la Révolution française. Je précise bien les événements qui se déroulent à l'échelle nationale, c'est-à-dire les grandes modifications institutionnelles, les nouvelles lois, etc., durant les années 89-92. Je vous prends un exemple, celui du sermon d'Adrien Vincent, Reçois-les, ces vœux, nation française, notre patrie et mère commune. Nous les formons plus comme des malheureux proscrits que tu rejetais de ton sein, désavoués par la loi, réduits à traîner une existence douloureuse sur une terre ingrate qu'à peine osions-nous cultiver. Nous les formons aujourd'hui comme des citoyens que tu reconnais, comme des enfants que tu te déclares t'appartenir. Il nous est donc permis de nous dire français. Le culte raisonnable que nous rendons à Dieu ne nous privera plus des biens qui appartiennent à l'homme, et les droits de la nature ne seront plus sacrifiés aux préjugés de la révolution, de la religion. Vous voyez, ici, la révolution est véritablement présentée comme libératrice, égalitaire et fraternelle, puisqu'il y a une union nationale, hein, en utilisant un terme général, qui permet aux protestants de se sentir appartenir enfin à la nation et d'être reconnus comme tels. Donc c'est une forme de réciprocité, il le dit. Nous, on s'est toujours considéré comme français, mais on peut aujourd'hui véritablement se réclamer comme étant français. Alors, deuxième moment où les pasteurs peuvent prendre la parole, c'est bien sûr à la tribune, enfin je dis bien sûr. On a 67 députés protestants pour les trois premières assemblées de la Révolution française. 10 ministres de la parole de Dieu, donc 10 pasteurs, ont été membres de cette assemblée, de ces différentes assemblées. Sous le directoire, on en a 2 autres, donc on va dire on a une douzaine d'individus qui ont appartenu à un moment de leur vie au corps du pastorat protestant et qui vont être élus comme députés, comme représentants de la nation. Alors, je donne quelques noms, Alba Lasource, Jean Julien, Rabot Pauvier, Rabot Saint-Étienne dont on a déjà parlé, Jean-Bon Saint-André dont je vous parlerai, Jean Cotard Grimmer, André Passager, David Cunier, donc des noms. Alors, de manière générale, et Jean-Clément Martin l'a dit, ils ne vont jamais arriver à la tribune en disant « nous avons été pasteurs ». Ce n'est pas quelque chose qui transparaît, évidemment, dans leur prise de parole. Mais on peut évoquer un moment où sans doute l'appartenance au corps des pasteurs a joué, ou en tout cas l'identité protestante n'a pas été abandonnée. C'est le cas notamment d'une prise de parole, celle de Rabot Saint-Étienne, à propos de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses ni troublé dans l'exercice de sa religion. » C'est cette discussion, hein, ça c'est la première façon dont cet article a été rédigé. On a un amendement de l'abbé Dillon, nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Et Jean-Paul Rabot Rabot Saint-Étienne, va prendre la parole pour essayer de discuter. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut que la liberté de culte soit reconnue. Et l'article 10, quand vous regardez l'article 10, hein, on n'a pas de liberté de culte expressément reconnue. Donc, il va prononcer le 23 août 1789, on est en pleine discussion sur l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, il va prononcer un discours relativement célèbre dans lequel on sent que le pasteur réapparaît. Ce n'est plus simplement le député qui parle. Alors, je le rappelle, pasteur en 1789, la liberté de culte n'existe pas encore, hein, donc il ne doit pas apparaître comme un pasteur. Alors, si on suit son discours, il le dit. Lorsqu'il prend la parole, il réalise ici une mission sacrée. Il le fait pour parler à la place de ses commettants, et notamment des commettants de la sénéchaussée de Nîmes, qui l'ont choisi. Alors, pour replacer Nîmes dans le contexte protestant de l'époque, c'est après Paris l'église la plus conséquente en termes de démographie. Entre 10 à 12 000 personnes appartiennent à cette religion. Alors, il explique que la situation des protestants est pour lui intenable. Et Jean-Clément Martin l'a rappelé tout à l'heure, cet édit de 1787 s'est finalement accordé le minimum que l'on peut accorder aux protestants. Mais il parle, il le répète aussi à plusieurs reprises, pour tous les non-catholiques du royaume, également pour les juifs, donc, et il explique qu'en déclarant que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, donc là il fait référence à un autre article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les droits de tous les Français sont les mêmes, tous les Français sont égaux en droit. Donc, Ici, on a véritablement un pasteur qui est député et qui prend la parole sur un article qui n'a pas n'importe quelle signification pour lui. Cette signification est celle d'un ancien pasteur, enfin on reste toujours pasteur lorsqu'on l'a été, mais d'un ancien pasteur qui est député et qui va essayer de défendre quelque chose qui tient à cœur à toute sa communauté. Et pour avoir travaillé un petit peu sur les archives de Rabault Saint-Étienne, on a ici exactement le même argumentaire qu'il avait développé dans un sermon en 1776 pour démontrer à quel point tenir des assemblées au désert est quelque chose qui est indispensable à la vie de tout protestant. Donc on a véritablement des pasteurs qui vont avoir des trajectoires qui, au sein des assemblées révolutionnaires, vont pouvoir à quelques moments croiser évidemment leur ancienne vie, pastorale. Et j'aimerais vous parler plus précisément d'un pasteur. Et ce pasteur, c'est Jambon Saint-André, André Jambon Saint-André, que je vais appeler Jambon à plusieurs reprises, hein, pardonnez-moi, mais c'est la façon la plus simple de le désigner. Alors, Jambon Saint-André, qui est-il ? Eh bien, il est né à Montauban en 1749, il est mort à Mayence en 1813, et il devient pasteur de sa ville de naissance. Alors, je passe sur ses années de formation, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Il devient pasteur en 1788 à Montauban. Il a été pasteur à Castres d'abord. Et entre 1789, donc il devient pasteur de sa ville, rappelé, parce que après l'édit de 1787, l'église de Montauban le rappelle. Donc de 1789 à 1792, au tout début de la Révolution française, il reste dans sa ville. Il est pasteur. Mais parallèlement, c'est-à-dire à ses occupations pastorales, il va devenir un des hommes les plus politiques, les plus en vue de sa ville natale, et il va se faire élire par le département du Lot, député à la Convention nationale. Tarn-et-Garonne n'est créé qu'en 1808 par Napoléon. Alors, jusqu'au mois de mars 1792, il reste à Montauban. Il joue à la fois un rôle politique et administratif. Puis à partir d'avril 1792, il arrive à Paris muni d'un mandat de député extraordinaire de sa ville. Il va y rester jusqu'au 12 juillet 1792. Et à partir de cette date, il va nouer énormément de liens avec d'autres députés, avec d'autres révolutionnaires, hein, parce que c'est ainsi aussi qu'il faut le désigner, et il va préparer les élections à la Convention nationale, à laquelle il sera élu le 6 septembre 1792. Donc il est enfin élu de la nation. Alors assez rapidement, une des caractéristiques de son action politique va apparaître, c'est-à-dire qu'il est constamment envoyé sur le terrain, alors qu'il va sillonner différents espaces français. Tout d'abord, il va revenir évidemment sur son terrain d'élection, son département d'élection. Le 9 mars 1793, l'Assemblée va décider l'envoi de 82 représentants dans les départements pour accélérer le recrutement des 300 000 autres. La guerre est une réalité. Donc Jambon est désigné pour parcourir en compagnie d'Élie Lacoste, qui est député de Dordogne, les deux départements dont ils sont élus. Donc il est de nouveau chez lui, puis il repart à Paris. Et il est, chose assez différent de ce dont on a parlé, montagnard. C'est-à-dire que, pour faire très simple, il est parmi la frange la plus dure, la plus ferme par rapport aux idées révolutionnaires. Donc, il revient à Paris, et comme montagnard, il est élu le 12 juin, membre du comité de salut public, en charge de la marine. Alors, vous allez dire, mais pourquoi la marine ? Alors, pourquoi la marine ? Eh bien, parce que Jambon Saint-André, avant d'avoir été pasteur, il a été officier de marine. C'est-à-dire que être pasteur, ça n'a pas été sa vocation première. Il a d'abord voulu être marin. Donc il est parti à Bordeaux, il s'est formé en tant qu'officier, il part, il connaît deux naufrages, et vraisemblablement ça l'a un petit peu refroidi sur cette carrière de marin, et il s'est dit, bon, finalement, je vais partir à Lausanne, devenir pasteur. C'est plus calme, c'est tout relatif. Bon, on est dans les années 1770, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus calme. Donc il devient pasteur, j'allais dire, après avoir été marin. Alors, ses collègues à l'Assemblée ne le connaissent pas en tant que marin. Ils le connaissent comme pasteur. Mais il a indéniablement une expertise dans le domaine maritime. Et il va énormément écrire, réfléchir et œuvrer à partir de 1790, déjà avant même d'être élu à l'Assemblée, sur ce qui relève des questions maritimes. Et ses prises de parole sont régulièrement publiées, d'ailleurs. Alors, en juillet 93, il est élu président de la Convention. C'est pas la première fois qu'un pasteur est élu président d'une assemblée révolutionnaire. Le premier à l'avoir été est Rabaud-Saint-Étienne, en mars 1790. Et, après 15 jours, il n'est plus président, comme tous les présidents, mais ça dure beaucoup moins longtemps que maintenant. Donc, il repart. Alors, cette fois-ci, il part dans le Nord. Il est nommé avec prière de la Marne aux armées du Nord, des Ardennes, de la Moselle et du Rhin. Et cette fois-ci, il est chargé d'observer, de mener une mission d'observation, de contrôle de l'état d'esprit des troupes. Hein. Donc, c'est quand même un rôle important. Hein. Je le rappelle, on est en période de guerre avec à peu près toute l'Europe. Alors, après le Lot, la Dordogne, le Nord, il est cette fois envoyé à Brest. On est le 22 septembre. Brest, là, on connecte les choses avec le domaine maritime. Et il a une autre mission auprès de l'armée navale, commandée alors par le vice-amiral Morard de Galle. Et il va mener une longue mission, plus de 4 mois, où il va se rendre également en Vendée. Et plus particulièrement à Cherbourg. Donc son rôle, vous le voyez, est d'essayer de maintenir une flotte française et de surveiller un état d'esprit des marins français pour éviter d'être complètement débordé également à ce niveau-là. Alors il va y avoir un rôle, symbolique, mais important, c'est que le 25 janvier 1794, il participe directement à une prise de décision. Puisque le 15 février, il rentre à Paris en janvier, le 15 février a lieu l'adoption dans la marine du drapeau tricolore aux trois bandes égales et verticales. Il remplace un pavillon blanc qui portait en son coin les trois couleurs républicaines. Donc cette innovation a été réclamée à maintes reprises par les matelots, mais aussi par l'ensemble des patriotes, et le pavillon de la marine donc s'aligne sur celui des bataillons des volontaires. Mais une fois que cette décision a été prise, il repart. Donc vous voyez, c'est un homme qui bouge énormément. Ça va un petit peu le sauver. En tout cas, c'est l'argumentaire qu'il va utiliser. On le verra plus tard pour dire « Moi, j'étais pas vraiment dans le comité de salut public. Hein. J'étais toujours ailleurs qu'à Paris. » Donc il repart en Bretagne dans le but, là, clairement, de reconstruire la marine française. Il va mettre en construction une frégate, en chantier. Il va décider aussi l'établissement d'une école d'hydrographie. Donc il a véritablement, j'y reviendrai, un rôle aussi sur l'éducation et la formation des marins. Alors, vous le comprenez, au bout d'un moment, il est quand même un petit peu fatigué de tous ces voyages incessants. Il demande à rentrer et être rentré à Paris en octobre 1994, mais la Convention, au nom de l'intérêt général, lui demande de rester en place. Et donc, il va aller cette fois-ci à Toulon, autre lieu stratégique de la marine française. Et lorsqu'il quitte Toulon, la République a à sa disposition 23 navires, des divisions de frégates qui surveillent alors sur la côte méditerranéenne les villes qui vont de Sète à Nice. Hein, et c'est un lieu stratégique important d'un point de vue de la stratégie militaire révolutionnaire. Alors, ce sont les émeutes de Prairial qui ont lieu donc le 20 mai 1795, ce sont les émeutes durant lesquelles les Parisiens vont envahir de nouveau la Convention, qui vont provoquer l'arrestation de plusieurs représentants, dont Jambon, qui va être menacé. Alors, il va se défendre justement en expliquant qu'il n'a pas été pour grand-chose dans les prises de décision. Alors, il le dit... En tout cas, c'est sa défense. Lorsque, évidemment, Robespierre est arrêté puis exécuté en juillet 1794, il explique « Moi, je n'ai jamais été vraiment très proche de Robespierre. Hein. » Il vaut mieux dire ça. Hein. Mais en 1995, donc lorsque on commence véritablement à sentir, pardonnez-moi, le roussi pour lui, il a cet argumentaire. Il dit « Moi, j'ai été envoyé sans cesse à l'étranger. Donc, je n'ai pas véritablement pris les décisions qui se jouaient à Paris. » Bon, il n'empêche, il va être emprisonné. Alors, grâce à cet emprisonnement, on a le seul portrait de lui, en tout cas, ou un portrait célèbre de lui, puisqu'il est emprisonné avec David, le peintre David, hein, qui va esquisser donc le portrait du pasteur. Ce pasteur tombe malade en novembre 95, et on l'autorise à rentrer chez lui, puis on le libère. Hein, donc il survit, hein, il passe, ça s'est joué de peu, hein, il aurait très bien pu ne pas résister à ce retournement de situation très, très, très courant, hein, sous la Révolution française. Alors de ce parcours, vous voyez, très rapide, hein, je suis allée à l'essentiel, qu'est-ce qu'on peut déduire déjà de ses idées politiques? Alors comment le savoir? Eh bien en lisant ses sermons, parce que vous avez compris que les sermons disent aussi de la pensée politique des pasteurs, en lisant aussi ses prises de position à la tribune. Alors, il a été formé au séminaire de Lausanne, comme tous les pasteurs d'expression française du XVIIIe siècle, et pour lui, il est évident que les idées des Lumières sont une réalité. Il est un homme des Lumières, le contrat social pour lui est à la base de la société, les hommes ont renoncé à une partie de leur liberté et se sont donné des gouvernants. Il affirme ensuite que la liberté de l'homme est quelque chose de fondamental, et ils sont libres. D'après, parce que la nature les a dotés de cet instinct de liberté, ils sont libres aussi parce que la religion réprouve l'esclavage. Donc on voit à quel point, hein, cette philosophie des Lumières sait aussi tisser des liens et des ponts avec la théologie protestante du temps. On parle d'une théologie raisonnée, hein, c'est-à-dire une forme de théologie protestante du XVIIIe siècle qui arrive à réconcilier raison et révélation. Il n'y a plus forcément d'opposition. Alors, il admet la souveraineté du peuple. Pour lui, tous les fonctionnaires doivent être élus. L'intérêt public, le salut du peuple, prime sur tout. Et dans un des sermons, il explique que le vrai patriote s'oublie lui-même quand il s'agit de l'intérêt public. Alors, en même temps, évidemment, il prône la paix, hein, c'est un pasteur, il prône la concorde, mais il va être capable de prendre des décisions radicales. Et la décision radicale que l'on peut attribuer à Jean-Bon Saint-André, oh, il n'est pas le seul à avoir pris cette décision, c'est bien sûr d'avoir voté pour la mort du roi. Il est parmi de ceux, bon, il y a quand même 161 voix pour et 134 contre, qui votent pour la mort du citoyen Capet. Il explique à la tribune le 20 janvier, donc la veille de la mort, l'exécution de Louis XVI, « Une grande révolution ne peut s'opérer que par un grand changement. On y trouve à côté des actes les plus éclatants de générosité, de grandeur d'âme, des traits qu'il faut autrement qualifier. La France, esclave depuis 14 siècles, courbée sous le joug de ses rois et de ses prêtres, a voulu briser ce joug avilissant, mais elle n'a pu le briser sans une commotion violente. » Donc on a là véritablement un pasteur qui ose dire, en tant que député, on est en révolution, et parce qu'on est en révolution, il faut savoir prendre des décisions qui vont parfois coûter, et qui sont parfois radicales, radicales, bon, la radicalisation et la radicalité, le propre de la Révolution française, mais on a ici une décision qui va jusqu'à son terme, qui est celle de la mort d'un homme, ce qui peut paraître surprenant de la part d'un pasteur. D'autres pasteurs qui vont voter de la même manière, d'autres qui vont être plus accommodants. Rabault-Saint-Étienne refuse de voter pour la mort du citoyen Capet. Alors, il participe également à l'Assemblée au grand débat sur l'éducation. Et l'on a d'ailleurs ici continuité, plus qu'une rupture, sur ce qu'il avait déjà prôné en tant que pasteur. Hein, je l'ai dit, un pasteur, par essence, c'est un pédagogue. C'est quelqu'un qui est attentif à l'éducation, l'édification de ses fidèles, mais pas simplement. Et on a véritablement, lorsqu'il est membre du comité de salut public et lorsqu'il est, par exemple, à Brest, on a un homme attentif à l'éducation des marins. Les marins qui demandent parfois des aumôniers, il ne va pas leur envoyer des aumôniers, il va leur envoyer des instituteurs. Tout simplement parce qu'il est persuadé que c'est par l'éducation que la libéralisation, que la liberté de l'individu se gagne, que l'autonomie de l'individu peut s'acquérir. Et donc il va leur offrir des instituteurs qui devaient procurer aux novices les plus intelligents des connaissances nécessaires pour leur permettre ensuite de se présenter aux écoles d'hydrographie qu'il avait contribué à créer. Alors vous voyez, c'est un homme qu'il est difficile de classer, mais j'allais dire, c'est souvent le cas de ces révolutionnaires, en tout cas quand je dis révolutionnaires, de ces hommes qui ont participé et vécu la révolution, qui peuvent aussi être pleins de contradictions, mais qui ne l'est pas, et on le comprend d'autant plus aisément dans ces périodes particulièrement fortes que représente la Révolution française. Alors, au total, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces prises de parole des pasteurs et de certaines de leurs actions sur la Révolution française ? Tout d'abord, il faut retenir qu'on a véritablement des modalités d'expression variables. On les retrouve en chair, parler évidemment de religion, mais parler aussi de politique. Et on se rend compte que lorsqu'ils parlent de politique, ils sont aussi prompts à essayer de raccrocher ça à un univers culturel qui est éminemment le leur, qui est celui de la religion et de la religion protestante et du texte biblique. Il faut aussi se rendre compte que ces pasteurs, comme d'autres citoyens français, ont pu aussi prendre la parole et participer activement. Alors j'ai beaucoup parlé de l'échelon national, mais on a aussi des pasteurs qui se retrouvent maires, juges de paix, qui participent à la vie locale, qui participent aux clubs qui se développent un petit peu partout dans la France de la Révolution française. Alors, est-ce que le parcours de Jean-Bon Saint-André, dont je vous ai parlé, est représentatif des parcours des pasteurs du temps ? Alors, je vous l'ai dit, 300 ont connu la Révolution à peu près, une douzaine ont siégé dans les diverses assemblées. Jean-Bon est un cas très particulier, puisque dans l'histoire de la Révolution française, on peut dire qu'il y a sans doute deux autres pasteurs qui ont eu un rôle aussi important, c'est Rabaut-Saint-Étienne et Alba-Lassource. Mais l'un et l'autre ne passent pas l'année 1793 parce que, justement, Girondins, modérés. Donc, d'une manière générale, on voit bien à quel point la trajectoire, j'allais dire, de Jean-Bon Saint-André est très particulière. Mais parce qu'elle est aussi très particulière, elle est intéressante à poser. Donc, évidemment, on a ici, au moment de la Révolution française, une grande nouveauté qui s'offre aux protestants. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on a des protestants qui participent activement à la chose publique, à l'État. Hein, Sully, la FEMA sont des hommes, l'amiral de Coligny sont des hommes du protestant du XVIe siècle qui ont participé à la construction de l'État, qui ont participé au premier plan, hein, à la prise de décision politique. Mais avec la Révolution française, on a véritablement la possibilité, pour les protestants comme tous les Français, de prendre une part active à la construction de la nation, dans un moment justement où la nation est en pleine refondation. Alors évidemment, le siècle qui suit, avec la reconnaissance définitive des cultes protestants par les articles organiques de 1802 dont on vous a parlé précédemment, ne fera qu'accentuer cette participation protestante à l'histoire politique de la France, faisant que par la suite, et notamment sous la Troisième République, on a beaucoup de protestants qui vont prendre une part très active à l'établissement de cette République française que nous connaissons encore aujourd'hui. Je vous remercie.
Bien, merci à tous deux pour cette exploration des protestants et de la Révolution. En entendant Jean-Clément Martin, je me suis demandé si le sujet était bien posé, puisque en vous entendant, j'avais envie de dire que c'est l'absence d'un sujet, en fait. Puisque les protestants n'apparaissent pas en tant que protestants au sein des assemblées révolutionnaires. Lorsqu'ils prennent des positions politiques, ça n'est pas visiblement non plus en tant que protestants. Les protestants sont quasiment absents ici de la contre-révolution. Ils apparaissent dans les bagarres de Montauban et de Nîmes, mais finalement, le clivage religieux qu'on pourrait imaginer protestant-catholique disparaît derrière un clivage probablement plus économique ou social. Et donc, pour résumer, on se demande s'il y a bien un sujet protestant et révolution, mais c'est provocateur. Pour revenir à cette thématique, et en vous écoutant aussi, Céline, je m'interroge malgré tout sur l'influence qu'ont eu véritablement... Alors, évidemment, les pasteurs en chair parlent, vous l'avez dit, hein, de politique. Ils édifient, mais ils parlent aussi de politique. Ils parlent à nouveau de politique dans les assemblées. Vous nous avez rappelé la trajectoire de Jean-Bon Saint-André, mais en écoutant cette trajectoire, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a du protestantisme dans cette trajectoire ? Bien sûr, on sait qu'il est protestant. Mais qu'est-ce qu'il y a de protestant dans cette trajectoire ? Et au fond, de nouveau, on est renvoyé à cette absence. Alors, sans doute pas complètement, hein, mais on est renvoyé à cette absence. Est-ce qu'il y a des positions religieuses, spirituelles, politiques, qui sont protestantes ? Peut-être chez Jambon, par exemple, cette insistance sur l'éducation. Peut-être chez Jambon, cette insistance sur les élections. Est-ce un héritage de l'organisation presbytéro-synodale ? Peut-être, on l'a dit, hein, parfois, mais est-ce vraiment certain ? Son positionnement sur l'esclavage, est, je ne crois pas avoir entendu ça. C'est très surprenant, je découvre. Est-ce qu'il est l'héritier, là, des Quakers et du travail de Bénézé, par exemple, puisqu'il me semble qu'à peu près à la même époque, c'est Benjamin Sigismond Froissart qui va prendre des positions contre l'esclavage. Mais la vraie lutte contre l'esclavage se développe au Royaume-Uni. Donc quelles sont ces relations ? Tout ça pour dire que, finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, et l'un et l'autre, au regard, après ces deux exposés, d'un engagement qui serait véritablement identitairement protestant dans la Révolution, hein. On a l'impression qu'il se déguise, alors peut-être le terme est fort, hein, peut-être mal choisi, et s'il se cache en tant que protestant, pourquoi se cache-t-il ? Et pourquoi ils surgissent d'un seul coup lors de la Troisième République, sans crainte ? Pourquoi au moment de la Révolution ? Est-ce que c'est encore cet habitus de la clandestinité, hein, qui fait qu'ils avancent, on pourrait dire, en quelque sorte, sous couverture, hein, en craignant de nouveau d'être sous la colère, finalement, de l'autorité d'État ? Je ne sais pas qui veut commencer.
Je crois que tu as répondu à la question.
Ah bah c'est-à-dire non. Que...
Non. Non, mais, moi, je voulais poser une question. Au moment de la Révolution française, ils sont véritablement encore dans l'attente d'être pleinement reconnus. Et on le voit bien dans les consistoires, quand on regarde les registres des consistoires, des synodes provinciaux ou nationaux, lorsque le culte est rétabli, mais lorsque ça... commence de nouveau à surveiller les assemblées politiques diverses et variées, certains membres des synodes provinciaux expliquent qu'on va peut-être inviter des représentants de l'État pour qu'ils voient qu'on ne parle pas de politique. Parce qu'on pourrait peut-être nous accuser de faire de la politique, et donc ça pourrait nous porter préjudice.
Ça, c'est une tradition qui revenait aux envoyés du roi dans les synodes.
Absolument. Ouais. Donc on ne peut pas comparer ces hommes, qui sont encore des hommes de révolution... C'est quand même le XVIIIe siècle, hein, quoi qu'on dise, avec toutes les bien sûr, c'est une rupture, mais la Révolution, je veux dire, hérite aussi de cette manière de penser la société encore au XVIIIe siècle, c'est-à-dire sous la monarchie absolue du droit divin. Donc la crainte est là. La crainte est là. Donc ils ne sont pas en Révolution parce qu'ils sont protestants.
On rejoint ce que disait un peu Jean-Clément Martin avec cette omniprésence de la violence d'État. Hein,
qu'il y a bien eu. Sûr, ça fait peur.
Ils sont marqués par ça.
Ça fait peur. Et d'ailleurs, lorsque Rabaut Saint-Étienne est élu, il n'est pas élu en tant que pasteur, il est élu comme bourgeois de la ville de Nîmes. Parce qu'officiellement, des pasteurs, il y en a, évidemment, mais ils ne sont pas reconnus, hein, jusqu'en 1700. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que lorsqu'on représente Rabaut Saint-Étienne dans l'iconographie contre-révolutionnaire, alors Jean-Clément Martin en a parlé, c'est l'idée du complot protestant qui aurait fomenté la Révolution, avec qui ? Avec les Juifs, avec les francs-maçons, avec les libres penseurs, etc., etc. Donc on a là, par contre, la représentation de Rabaut Saint-Étienne avec la robe du pasteur, mais la robe pastorale, qui n'a pas lieu d'être avant 1791.
Donc, question, est-ce que les protestants ont joué un rôle ? Moi, j'ai envie de reverser la question. Hein. Et finalement, si on parlait des catholiques. Parce que l'avantage des protestants...
Bonne question.
Ben oui, merci. Et l'avantage des protestants, c'est que finalement, Céline le disait tout à l'heure, ils sont peu nombreux, on peut les connaître tous. Bon. Si on se met du côté des catholiques qui sont les plus nombreux, qu'est-ce qu'on va trouver ? on va trouver des gens qui sont favorables à la démocratie, qui sont favorables à l'éducation, qui luttent contre l'esclavage. Avant 1789, je voudrais en citer un, c'est l'abbé Grégoire. Et la question qui aura tout le temps été posée, c'est est-ce que l'abbé Grégoire, alors qu'on n'ose pas dire janséniste, mais qu'on va dire peut-être jansénisant, était oui ou non protestant. Mais grosso modo, il est sur ces bases-là. C'est-à-dire que, bon, vous avez parlé des protestants qui sont adeptes d'une démocratie, mais l'amourette, pris régulièrement pour un peu pour un imbécile, l'évêque qui sera exécuté en 93, mais qui jouait un rôle important dans la théologie catholique, et estimait avant 1789 que quand on était bon chrétien, on devait être bon citoyen, et que pour être bon citoyen, il fallait être bon chrétien. Donc l'identité entre foi et investissement dans la cité, c'était vrai chez les catholiques. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire non plus qu'il y a une spécificité protestante, enfin, si je dis ça comme ça. Bon. Et puis, les gens qui ont, quoique prêtres ou pasteurs, ont voté pour la mort du roi ou ont accepté la mort du roi, ben, y en a un quand même qui pose problème. C'est le fameux Jacques Roux, donc curé à côté d'Angoulême, qui va être, lui, un des deux envoyés de la commune le 21 janvier 1793 pour aller chercher le roi et le conduire à l'échafaud. Et les deux envoyés de la commune, c'est deux anciens prêtres. Bon, et c'est un truc qu'on leur fait, une petite saloperie qu'on leur fait pour leur montrer qu'ils ont adopté des positions contraires normalement, ce qui aurait dû être leur fond doctrinal. Bon, mais on voit bien que là aussi, on va trouver dans le catholicisme tout l'éventail qu'on trouve dans le protestantisme. Alors, avec une différence, hein, où ça me semble quand même, en revanche, vraiment différent, c'est que, je le dis en toute tranquillité, là, c'est qu'une grande partie quand même, et de l'épiscopat, et de la pensée catholique, laïque, classique, aura été toujours hostile au protestantisme et va nourrir là toutes les rancunes contre-révolutionnaires contre le protestantisme. Les accusations, effectivement, des protestants comploteurs, c'est d'emblée, dès 1790, ça sera après le fonds de commerce de Barbel, et puis toute la restauration ultra, hein, pas la restauration modérée, mais la restauration ultra, verra dans le protestantisme les fauteurs de la révolution. Donc il y a bien là, de la part du catholicisme le plus réactionnaire, l'utilisation des protestants comme les fauteurs de la révolution. Hein. Bon, là, il faut vraiment jamais oublier ça. Ça permet aussi de comprendre. Bon, je citais Lamourette, je citais Grégoire, évidemment Jacques Roux. Ce sont des personnages que l'Église catholique n'a jamais reconnus. Bon, je dirais, jusqu'à aujourd'hui encore, Lamourette et Grégoire sont considérés avec précaution par grand nombre de membres de la hiérarchie catholique. Donc leur responsabilité dans la marche de la Révolution n'a pas été oubliée. Mais là, c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre cette complexité complète qui fait quand même que les Lumières ont touché toutes les religions, y compris aussi une partie des juifs, même s'il y a un certain nombre de juifs qui seront restés en dehors de la question. Mais les Lumières, là, ont été à peu près équitablement réparties, sauf la contre-révolution catholique, qui a marqué l'histoire de France et qui continue, de fait, à jouer encore sur la mémoire nationale. Voilà.
Alors, est-ce que les Lumières n'ont pas touché un peu plus le protestantisme? Je pense ici à une phrase de Patrick Cabanel, hein, dans son Histoire des protestants de France, je ne sais pas quelle position vous adopteriez, qui dit à peu près ceci: il y a une sorte de mariage entre protestantisme et révolution, car les protestants ont trouvé dans les révolutions finalement l'accomplissement de leur rêve évangélique, en quelque sorte, hein, de leurs aspirations évangéliques à l'égalité, hein, à la fraternité, à une forme de liberté. Ce qui était prôné par les pasteurs protestants. Et il dit qu'il y a une forme de séduction qui s'est emparée des protestants et qui ont cru que le temps était arrivé, finalement, avec la Révolution, de ce temps. Et ce qui les a conduits à adhérer complètement à la Révolution française, y compris d'ailleurs, dans l'autre sens, quand il y a du terreur, les pasteurs à ne pas résister, car ils voyaient dans la Révolution, finalement, l'accomplissement de cet idéal évangélique.
Oui, c'est ce que j'allais dire, mais ils ont été séduits un temps. Parce que, effectivement, lorsque la déchristianisation, en tout cas, je l'appelle comme on veut, mais ce temps où on a véritablement une lutte contre tout héritage chrétien à l'intérieur de la France, là, les pasteurs abdiquent, pour certains d'entre eux quand même, en masse, ils se taisent, et j'allais dire, tout comme ils ont été prompts à valoriser la Révolution qui leur a apporté la paix, la liberté, l'égalité, etc., ils vont faire de même avec Napoléon Bonaparte en 1802. Et on repart pour 4 années de mariage entre l'Empire et les protestants, jusqu'au moment où Napoléon commence à trouver qu'il faut quand même beaucoup de guerres, que ça dure, et on commence à avoir, une distance, une rupture, en tout cas, qui n'est pas... à partir des années 1806, 1807. Donc, j'allais dire, les pasteurs ou les protestants, ben, logiquement, comme tout Français du temps, va être séduit par, en tout cas, tous les membres du tiers-État vont être séduits par ces idées nouvelles qui accordent une place à l'égalité et à la liberté. Enfin, faut être réaliste là-dessus. C'est, je veux dire, on ne peut pas considérer que les protestants sont révolutionnaires. Tous, parce que c'est faux, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire, il y a une infinité de nuances et l'histoire est là pour prouver que c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est une infinité de gris. Donc on a des protestants qui ont été favorables, d'autres qui étaient moins favorables à la Révolution française. Mais c'est vrai que de manière générale, il n'y avait aucune raison pour eux d'être hostiles à ce mouvement qui leur permettait enfin d'acquérir les droits qu'ils recherchaient depuis tant d'années. Mais à partir du moment où la Révolution devient violente, à partir du moment où la Révolution devient injuste, ou en tout cas devient... profondément contraire à ce qui ressemble à la morale chrétienne, l'égalité, la liberté, etc., ils ne sont plus d'accord. Et ils retrouvent les mêmes élans, j'allais dire, d'amour à l'égard de Napoléon, à partir de 1802.
Si je peux ajouter un petit mot. Non, je suis assez d'accord, et en même temps, je pense qu'il faut vraiment être très prudent sur ces histoires-là, parce que... je pense qu'il y a, il y a des choses qui sont imbriquées. Ce qui se passe notamment dans le Midi, c'est des réactions de clans, des réactions de groupes sociaux. On est protestant, on est catholique, et on réagit autant par identité religieuse qu'identité sociale, identité de groupe. Enfin, je pense que ça joue d'une façon spécifique, certainement, au sud de la France, ce qui n'existe pas ailleurs. Bon. Si on regarde autrement l'adhésion ou le rapport des catholiques à la Révolution, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que ceux qui seront hostiles à la Révolution après 1792, j'ai en tête des exemples très précis. En 1789, ils sont enchantés de la Révolution. Et ils vont bénir les drapeaux, ils vont organiser les milliers de Tédéum à la mémoire des victimes du 14 juillet. Le 14 juillet 1789, ce ne sont pas des fêtes civiles qui vont compter, ce sont les innombrables messes, les milliers de messes qui sont célébrées en France. Bon, qu'on oublie tout le temps, parce que les républicains après ont fait oublier que la Révolution avait eu ce soutien des curés. Bon. Mais les curés en 89 ont soutenu la Révolution, même quand ils seront hostiles à la Révolution. Et ils sont hostiles à la Révolution pour des raisons alors, auxquelles les protestants ne sont pas confrontés. C'est 91. Est-ce qu'ils doivent prêter ce serment à la nation qui les délie du lien direct au pape. Bon. Et là, on voit bien que, grosso modo, c'est 50-50. Hein. Il y a un tout petit peu plus de curés qui vont adhérer à la Révolution, donc au serment constitutionnel, et un petit peu moins qui vont refuser. C'est ça qui va poser question. Bon. C'est-à-dire que là, et à partir de 91, je dirais, la machine s'enraye. Hein. Bon. À partir de 91, une partie des catholiques vont apparaître comme hostiles à la Révolution. Et là, c'est fini. C'est-à-dire que plus personne ne retiendra la violence qui se met en place, et notamment dans l'Ouest, où une partie des administrateurs, alors peut-être certains avec une mémoire protestante, parce que la Revelière Lebeau, quand il va être un peu, quand il va être anticlérical, est-ce que c'est pas ça, la mémoire familiale qui ressurgit, on va faire de la psychanalyse, mais il y a là une hostilité des administrateurs devant des catholiques qui refusent les lois nationales. Bon. Et on est en 91-92, on est donc... c'est bien ça qui crée la violence qui va continuer ensuite. Bon. Alors attends, sur la période de 1793-94, je maintiens qu'il ne faudrait pas l'appeler la terreur, parce que le mot terreur, il n'y a pas eu de régime de terreur qui a été installé, quoi qu'on en dise. Il y a eu cette violence extraordinaire, et une violence compliquée, parce que quand il y a cette fameuse fête de l'être suprême en juin 94, vous êtes de la nature, hein, bon, une partie des catholiques et une partie des protestants voit dans l'instauration de cette fête de l'être suprême la réconciliation de l'Église et de la Révolution. C'est-à-dire, l'idée de voir tout en noir et en blanc s'opposer, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est une grande partie d'entre eux, tout le monde est silencieux. Bon, sauf des exceptions. Grégoire habillé en évêque, bon, celui-là... Bon, chapeau, quoi. Bon, mais c'est une personnalité extraordinaire. Mais il y a là quelque chose. Ils ont tous plus ou moins laissé passer la tempête de cette violence de la guerre civile et de la guerre aux frontières. Et à partir de juin 94, pour beaucoup d'entre eux, il y a cette espèce de réconciliation qui se met en place. Catholiques et protestants. Hein. On n'est pas dans des oppositions binaires. C'est ça qui est difficile à comprendre, même dans cette période-là. Alors, sauf dans les régions de grande guerre civile, où là, on ne fait pas de cadeaux. Hein. Mais dans la majorité du pays, les choses sont quand même très, très compliquées. Ce qui permet de comprendre à la fois ces silences, à la fois ces renaissances. Bon, donc... c'est ça qu'il faudrait essayer d'arriver à comprendre. Mais je suis d'accord avec cette idée de se garantir de jugements trop rapides sur l'attitude des gens. Il faut se méfier de ce genre de jugement. On va peut-être trop parler.
Non. On va laisser la parole au public maintenant.
Oui,
Denis.
Je voudrais faire deux remarques.
Il faudra nous le redonner parce qu'on n'en a qu'un.
Hein. Oui, mais dès que je me tairai, je te le passe. À moins que tu me fasses taire.
Non, pas du tout.
Je voudrais faire deux remarques. Les protestants sont des exclus. Ils sont interdits des fonctions civiles et militaires jusqu'à la fin de l'année 1789. Hein, le décret de l'Assemblée nationale, il est décembre 89. Donc, ils n'ont pas fait d'études pour être juges ou pour être officiers. Ils n'ont pas fait les écoles militaires. Les gens éduqués chez les protestants sont toujours des négociants. Dans les sociétés savantes ou dans les loges maçonniques, il y a pléthore de magistrats, de militaires, mais ce sont toujours des catholiques. Les seuls protestants qui sont dans ces sociétés sont toujours des négociants. Donc, les protestants dans la Révolution, comme engagés politiquement, ils viennent de ce milieu-là. Sauf Jambon, parce qu'il est un ancien officier de la marine marchande. Pas de la marine royale, c'était pas possible. Donc, il faut comprendre, il me semble... le personnel politique de la Révolution, quand il est protestant, à partir de cette homogénéité qu'ils ont d'être des négociants. Et généralement des bons négociants, parce que les mauvais, ils n'ont pas le suffrage du public. Donc ça, c'est une proposition que je fais. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'hostilité à l'égard des protestants. La guerre de Vendée commence à Montcoutant, où j'habite. C'est bien l'histoire, c'est-à-dire par refus de la conscription, il y a une émeute, on pille la maison de l'administrateur du Vivier, sur la place du bourg où elle existe encore, et puis les insurgés prennent le chemin de la forêt sur Sèvre dans l'espoir qu'ils vont trouver un noble, un ancien officier qui pourra prendre la tête. Et en chemin, il y a 5 km entre les deux, ils vont piller deux maisons. Il se trouve que c'est la maison d'un ancien de l'église protestante de Montcoutan et c'est la maison de la veuve d'un prédicant. Donc je me pose la question que l'hostilité était là dès le départ. Et ça ne peut être entretenu dans les guerres de Vendée quand l'armée catholique et royale fait sa proclamation et où elle prétend que l'édit de tolérance, puisqu'il a été accordé par Louis XVI, c'est très bien, mais comme il ne parle pas ni du pasteur ni des cultes, les cultes sont interdits. Vous voyez l'effet pour la population catholique, que tout ce qui concerne les protestants, c'est toujours interdit, et pour les protestants, cette chape de plomb à laquelle ils espéraient tant échapper, qui leur retombe dessus. Donc il y a une hostilité de la population à l'égard des protestants qui me paraît assez universelle dans les débuts de la Révolution. Voilà, c'était mes deux observations. C'est une troisième, quand même, je ne peux pas résister au plaisir. Quand M. Mitterrand a fait entrer l'évêque Grégoire au Panthéon, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait aucun représentant de la hiérarchie catholique.
Ah bon ? Céline, d'abord.
Oui, alors, donc, deux questions, deux objections. La première objection, c'est que faites-vous de Barnave et de Barère ? Avocat. Avocat. Non, vous n'avez pas, je dirais que vous avez tort, hein. Mais je pense qu'il faut, là aussi, les choses sont plus compliquées quand même, si vous me permettez. Là, on est, vous avez raison quand vous parlez des exclus. En même temps, je vous dirais bien, précisément, la royauté de Louis XVI, c'est quand même d'avoir accepté, je l'avais dit, les protestants dans le royaume, d'avoir le ministre des Finances Necker ou Necker, comme vous voulez, c'est-à-dire que d'avoir traité avec des marchands juifs importants, on est rentré quand même dans quelque chose de différent. Je ne dis pas que ça a disparu, et vous avez raison de rappeler après les oppositions au moment de la naissance de la guerre de Vendée. Alors, je vous félicite d'habiter dans le lieu où la guerre de Vendée est née, mais je connais au moins 5 hein, lieux où la guerre de Vendée a commencé. Donc, on va faire, c'est comme
la guerre des Camisards.
Oui, ou la tête de Cromwell. Enfant, il y en a plusieurs. Bon, donc, moi, il me semble que là, il faut voir aussi la chose de la même façon. C'est pour ça que j'avais cité Machecoul. C'était pas du tout anecdotique. C'était pour rappeler que tous les groupes sociaux sont clivés sur des registres très subtils. Bon. C'est incroyable de penser que des catholiques autour de Machecoul se tuent parce qu'il y en a les uns qui croient un peu plus aux superstitions et les autres qui croient un peu moins. Ils sont tous catholiques. Bon. Donc, mais ils sont différents sur bien des points. Enfin, c'est pas grand-chose. C'est une façon de s'habiller, de parler, d'aller à l'école, etc. Bon, donc, on a là qu'il y ait des résurgences de souvenirs. Oui, si vous voulez, je ne dirais pas le contraire. Vous avez certainement raison. Mais on est bien sur des jeux de différenciation qui restent et qui sont réactivés. Bon, les députés vendéens protestants, leur famille ne sera pas poursuivie, ne seront pas poursuivis, ils ne seront pas mis à mort. Bon, c'est bizarre, les choses sont bizarres. Donc on est bien dans des zones d'exclusion, et vous avez raison, mais avec des aspects de transaction. Ça dure tout le temps. Alors que... il y a aussi des exemples de grandes violences, mais pour moi, c'est la grande violence, c'est vraiment surtout dans le Midi où les habitudes de mise à mort sont beaucoup plus grandes. On se tue davantage. Voulez-vous que j'y fasse, moi ?
C'est... Parce que c'est le Midi.
Ben oui, c'est ce que disaient les révolutionnaires. Hein. Ils ont le sang chaud, c'est normal. Mais voilà, bon, on ira. Non, je pense qu'il y a des luttes claniques qui n'existent pas ailleurs. C'est pas un jugement, hein. C'est une simple constatation.
D'autres questions ? Oui.
Personne ne veut parler.
Ça va aller ?
Oui, ça va aller.
Très bien. Vous avez prononcé le mot fédéralisme et fédéraliste dans votre exposé, mais juste en passant. Et pour revenir aux remarques initiales de Franck Belloir, je me suis posé la question de savoir s'il y avait à la fin du XVIIIe siècle, malgré tout, encore un reste chez les protestants français, et particulièrement ceux qui ont été délégués, des idées fédérales, fédéralistes du XVIIe siècle, et en particulier une filiation peut-être avec les théories politiques de Johannes Althusius, le grand à la fois théologien et, je dirais, politologue ou théoricien politique de la notion de subsidiarité.
Alors non. En revanche, le fédéralisme va être une accusation qui va être portée contre certains protestants, et notamment la famille Rabault Saint-Étienne, qui vont être accusés d'être des fédéralistes. Et on va remonter là, la notion de fédéralisme remonte bien au XVIIe siècle, mais en expliquant que finalement, ils veulent ici réaliser, évidemment, hein, on est dans l'ordre du complot, des reconstructions historiques de la contre-révolution catholique. Et là, on les accuse à ce moment-là de vouloir réaliser les desseins qui ont été pensés à La Rochelle en 1621, où l'idée était de faire plusieurs cercles dans le royaume de France, à l'image de ce qui est fait en Allemagne. Hein, vous voyez la filiation. Mais dans le protestantisme, il n'y a pas du tout de courant qui se revendique de cette logique-là. En revanche, c'est une accusation qui va être portée par les contre-révolutionnaires catholiques et qui vont accuser donc les Rabault, et notamment Rabault Saint-Étienne, Rabault son père aussi, hein, qui vont de réaliser enfin les desseins fédéralistes pensés au XVIIe siècle. Voilà.
J'avoue que j'ignorais complètement. Hein. Bon. En revanche, non, votre question et votre réaction, moi, me font relire autrement le mot fédéralisme. Quand j'ai parlé de fédéralisme, c'est l'accusation portée par les montagnards et les sans-culottes contre les Girondins suspectés de vouloir créer des fédérations en France, de vouloir diviser la France. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, régulièrement, il vaut mieux être Girondin, défenseur des provinces, que Jacobin centralisateur, qui sont toujours supposés avoir la guillotine dans leur attirail. Bon. Ce qui me frappe, moi, de ce point de vue-là, c'est cette question théologique, je ne la connaissais pas. En revanche, cette lecture que je fais du mot fédéraliste n'a rien à voir. C'est une espèce de renversement complet des perspectives, puisqu'en 1789, ce qui était bien, c'était les fédérations de patriotes dans le pays. Bon. Ce que tout le monde croit connaître, avec la fameuse fête de la fédération du 14 juillet 1790, qui rassemblerait tout le pays dans une même fédération. C'est là, théoriquement, c'est ce que nous fêtons encore aujourd'hui, les 14 juillet. Nous ne fêtons pas vraiment la prise de la Bastille et les morts de la prise de la Bastille, mais nous fêtons la fête de la fédération de 90. Bon, ce qu'on oublie, c'est que cette fête de la fédération de 90 a été vite fait bricolée pour empêcher que les patriotes de Bretagne ou de je ne sais où prennent le pouvoir contre l'Assemblée constituante. C'est-à-dire que la crainte était là de dire on va pas laisser faire le peuple de base créer des fédérations qui priveraient les députés du pouvoir. Et en définitive, ce qui se passe rapidement, c'est que dans la Révolution, on craint les fédérations. On ne les soutient pas, on les craint. Et à partir de 93, je passe à un certain nombre d'éléments, à partir de 93, on va accuser les Girondins, qui étaient parfaitement centralisateurs et qui envoyaient, comme les autres, leurs adversaires à la guillotine, d'être des fédéralistes, alors que ce n'était pas du tout leur volonté, sauf un ou deux, mais de vouloir fédérer la France. Mais c'était la bonne accusation, ils voulaient démembrer la France, c'était des fédéralistes, et c'est vrai que ça devait faire écho à d'autres querelles, et le mot d'un seul coup est devenu incompréhensible, mais d'usage quotidien. Bon, au passage, vous noterez que c'est un sens différent aux États-Unis, parce que c'est complètement à front renversé, là, d'un seul coup. Bon. Donc, le mot fédéraliste, c'est une accusation grave en France. Hein. Être fédéraliste, c'est difficile.
difficile à porter. Hein. Mais je crois que là, on est sur ces moments bizarres où des mémoires se créent sans qu'on comprenne bien exactement le sens des choses.
D'autres questions ou remarques ? Oui.
Peut-être une question par rapport au pasteur en chair. Vous avez souligné que, a priori, si j'ai bien compris, une sorte de regard favorable sur la révolution. Est-ce qu'il y a des voix discordantes ? Peut-être, c'est facile à dire de celle qui est venue après, mais est-ce qu'on aurait pu entendre des voix discordantes qui soulèvent un danger, un piège ? Ou tout simplement, je dirais, ne serait-ce que cette fête de l'être suprême, qui est quand même un peu incongrue dans une théologie protestante classique. Est-ce que ça a été soulevé ?
Alors, théologie protestante désormais rationalisante, hein, au XVIIIe siècle.
Oui,
il faut dire qu'ils sont déjà plus un paradoxe près. Hein, donc,
je sais, mais c'est le sens de ma question.
Alors,
je me permets juste de préciser, mais la question est très bien.
Le problème, c'est que lorsqu'on veut la fête de l'être suprême et de la nature, on est à un moment où les pasteurs ne prennent plus la parole en chair. Donc, difficile de savoir exactement ce qu'ils auraient pu dire. Hein. On ne va pas faire de l'uchronie sur ce qui aurait pu être et qui n'a pas été, le champ des possibles, même si ça plaît beaucoup de penser comme ça. En revanche, on a des pasteurs, d'anciens pasteurs, hein, parfois qui ont abdiqué leur fonction de pasteur, qui vont à ce moment-là faire des discours dans des clubs et qui, à ce moment-là, vont complètement adhérer... À l'idée du moment, hein. Donc la fête de l'être suprême, ça leur plaît beaucoup. De toute façon, être suprême, ils l'utilisaient déjà dans leurs sermons. Donc ils désignaient Dieu comme étant l'être suprême. Donc ils sont pas à une contradiction près, mais en même temps, ils trouvent pas ça vraiment contradictoire. Donc voilà. Donc il n'y a pas spécifiquement de sermons sur la question. Il y a des discours dans des clubs. D'anciens pasteurs qui sont en plein dans cette logique de l'autel, de l'être suprême, qui j'ai trouvé des papiers, des odes qui sont réalisés à l'être suprême dans la perspective 94, hein, donc voilà.
Oui, ça c'est une question qui à mon avis est fondamentale pour ce qui concerne le protestantisme, puisqu'il y a eu une déviation fondamentale hein, du protestantisme et de sa théologie entre le XVIIIe et le XVIIe siècle. C'est une évidence. Hein. La théologie fédérale de Calvin disparaît, elle est complètement escamotée au XVIIIe siècle, elle devient hyper rationalisante, ce qui fait que finalement, les protestants, c'est ce que je voulais dire un peu tout à l'heure, sont de véritables, les pasteurs notamment, sont de vraies éponges, hein, de vraies éponges face au discours de la Révolution française. Et à l'être suprême, ça leur pose aucun problème, puisque de toute manière, ils sont complètement... dans cette perspective, la question que je me pose, c'est que, par ailleurs, et je ne sais pas si ça a été étudié, mais il y a aussi, à l'intérieur du protestantisme, des clivages. Alors, bon, il y a des clivages sociaux, d'accord, mais il y a aussi des clivages, désormais, qui sont des clivages théologiques, et plus que théologiques, des clivages spirituels, avec des mouvements de réveil qui se réintroduisent en France. Je pense notamment à l'arrivée ici des méthodistes, dans les années 1790, 1791, en Normandie, et qui n'ont pas, eux, du tout... la même position sur la Révolution française en tant que protestant. Je me demande aussi quelle est, par exemple, la position des Quakers de Congénie. Hein. Donc là, je pense qu'il y aurait effectivement des voix très, très discordantes hein, de ces pasteurs, hein, des mouvements de réveil, et qui ne sont pas des mouvements de réveil complètement isolés, hein, puisque quand on parle des méthodistes, hein, c'est déjà un mouvement qui a plusieurs dizaines d'années, qui vient d'Angleterre, qui est structuré, donc qui est organisé, hein, et qui est capable d'une vraie réflexion théologique, réappropriée d'ailleurs par via Calvin. Je ne sais pas si Céline, tu as des choses...
Non,
moi j'aimerais bien rajouter un mot. Je ne connais rien dans tout ce que vous venez de dire, donc je vais bien me garder de me mêler de cette question-là, mais je prendrai le problème autrement. Il faut vraiment pas oublier une chose, c'est que quand la fête de l'être suprême et de la nature est inaugurée, sans faire de paradoxe, je suis quasiment persuadé que les trois quarts des Français n'y comprennent rien. Bon. Ils n'y comprennent vraiment rien. C'est un jour de Pentecôte. Ceux qui comprennent le plus, ce sont les députés de la Convention qui ont parfaitement compris que être athée Et être décristianisateur, ça devenait vraiment trop dangereux pour eux. Bon. Et ça, c'est clair. Bon. Mais on voit bien dans un certain nombre de régions françaises que des paroissiens disent « ça tombe bien, on va réouvrir les églises », d'autres vont dire « on va organiser les fêtes de la raison et les fêtes de l'être suprême ensemble », enfin, et d'autres vont dire que l'église catholique va être reconnue. On est dans cette espèce de grande incertitude, incompréhension. Ce dont nous parlons aujourd'hui, qui est précis et subtil, était à l'époque extraordinairement confus et, je dirais, magmatique. Bon. Et c'est pas seulement vrai pour les protestants, parce que ce qu'il faudrait jamais oublier, c'est la grande diversité du monde catholique, avec d'un côté les mystiques qui vont être absolument contre-révolutionnaires et qui vont aller jusqu'au bout, et puis de l'autre côté aussi un certain nombre de mystiques qui vont être sans culottes, vraiment sans culottes, proches de Marat, qui vont créer des sectes assez extraordinaires, comme la secte du Forez autour des frères Bonjour, qui va rassembler quand même quelques milliers de personnes jusque dans les années 1810. Et puis ça donnera lieu après, on le sait quand même dans cette région-là, à toutes ces dissidences de l'église catholique romaine qui se regrouperont plus ou moins dans la petite église après. Mais jusqu'en 1828-1830, il y aura du mouvement catholique dissident. C'est-à-dire que la révolution fonctionne sur ce gigantesque creuset politico-religieux où d'un seul coup, pour un certain nombre de jansénistes très virulents, la révolution apparaît comme la réponse donnée par le ciel à tout le péché que l'Église porte sur elle. Donc on est rentré là dans des courants d'une complexité totalement folle. Tout ça, ça sera gommé progressivement à partir des années 1830-1850, parce que ça, l'Église catholique là, va verrouiller ça partout. Hein. Bon. Mais on voit bien à quel point c'est extraordinairement florissant. Donc ce dont nous parlons, c'est ça. Hein. C'est pas des gens qui pèsent avec des petites balances les pensées théologiques. Hein. C'est aussi des grands sentiments et du mysticisme.
D'autres questions ? Oui.
Ce n'est pas une question, c'est... par rapport à ce que vous avez dit de passionnant, de parfois très, très complexe, quelque chose de plus local, si vous le permettez. J'ai pris quelques notes avant de venir. Cholet, à la fin du 18e, a croisé quelques protestants ici, et ça lui paraissait intéressant de l'évoquer au passage. Il y avait à Cholet, à partir du milieu du XVIIIe siècle, ce que j'ai pu appeler une petite colonie de languedociens. C'était des négociants et leurs commis. Donc, ça rejoint ce que dit monsieur. C'était des toiliers. Hein, ils tissaient de la toile, des mouchoirs, des cotonnades diverses destinées à l'impression. Hein, les fabrications des Indiennes, tout ça était exporté vers les Antilles, notamment. Enfin bon. Et il y a une maison languedocienne qui s'est particulièrement illustrée dans cette activité, c'est la maison Cambon. Bon, les Cambon, je ne sais pas, à ma connaissance, ils n'étaient plus inscrits, je dirais, dans la mouvance protestante, mais ils étaient dans un univers culturel protestant. Cambon, c'est pas rien. C'est, comme on le dit familièrement, le ministre des Finances de la Convention. Et son frère exerçait, enfin ici, à Cholet, son métier de négociant, ainsi que deux autres de ses frères. Il a été, ce Cambon, il a été une personnalité éminente du mouvement révolutionnaire ici, à Cholet. Il a été très, très impliqué. Et au-delà de cette maison Cambon, il y en avait beaucoup d'autres. J'en ai listé, peut-être ça parlera à certains d'entre vous, Odéracte, Ballard, Il y avait la maison Bastide, père et fils, Cabanis, Domas, Demian, Déour-Farel, ça je crois que ça parle, Lajar, Lavie, Niquet, Nogaret-Paul. Alors Nogaret-Paul, c'était le commis d'une maison de négoce de Nîmes. Son neveu était une personnalité libérale ici à Cholet, sous la monarchie de Juillet notamment, et son petit-neveu, une personnalité républicaine à la fin du 19e ici à Cholet. Louis Parlier, Rejoux, Pierre-Claude, là c'était un Nîmois, Reboul, Itier, Louis Serre,
plusieurs aussi.
Tous ces gens sont du Languedoc. Je voudrais insister sur l'un d'entre eux. Le seul que l'on connaît, en tout cas qui nous a été dit par Gélusseau, notamment le premier historien de Cholet, milieu des années 1860, qui nous a été dit protestant. Alors, je passe sur son père qui avait créé et développé l'affaire là-bas dans le Languedoc, et là je parle de Louis Parlier. Alors Louis Parlier, il est né à la Barre des Cévennes, 1764. Il est placé par son père en 1780 en apprentissage chez un négociant nîmois. En 1785, il entre à l'instigation de son père dans la société de commerce Montpellier-Rennes, Farel et fils et Cabanis, qui exploite des succursales à Bordeaux, Cholet et Rouen. Après un bref passage à Bordeaux, il est chargé du suivi de la succursale choletaise de l'entreprise et y accomplit entre 1785 et 1797 de longs séjours. Il ne semble pas avoir joué un rôle de premier plan dans l'effervescence révolutionnaire choletaise, à la différence de quelques autres, notamment Ballarme, enfin il y en a encore d'autres. Gélusseau rapporte néanmoins qu'en mars 1793, arrêté par les Vendéens qui viennent de s'emparer de Cholet, il est sur le point d'être fusillé sans recevoir l'absolution car de religion réformée. Il est finalement laissé en vie et emprisonné avec d'autres compatriotes méridionaux dans le château de Cholet. Là, on est donc, si vous voulez, au début, enfin, dans la seconde moitié du mois de mars, enfin, dans le tournant mars-avril, je pense. Hein. En Brumaire en deux, il accompagne... Alors, ils vont s'évader hein, de la prison du château. En Brumaire en deux, il raccompagne de Cholet à Montpellier son ami et parent Henri Lavie, malade, et il revient immédiatement pour suivre au plus près l'évolution de la situation commerciale dans la ville que les Bleus ont reprise au Blanc un mois plus tôt. Le 27 Fructidor en deux, donc septembre 1794, il obtient un certificat de civisme des commissaires municipaux de la commune de Cholet établie à Nantes. De novembre 1796 à novembre 1797, il est à nouveau à Cholet pour y défendre les intérêts de son entreprise, dont les activités de commerce et de fabrique en Bas-Anjou ont été très affectées par la guerre de Vendée. Ce sera le cas aussi pour les Cambon et toutes les autres. En novembre 1796, succédant à son père qui vient de décéder, il cesse d'être un employé de la maison Farel et fils et Parlier et en devient l'associé et le co-gérant. On a quand même un personnage important. Je n'ai pas constaté, moi, bon, ils sont là, c'est protestant, mais ils ne sont pas là à escalité, justement. Ils ne sont pas là à escalité, pas constaté d'hostilité. Et là, ils passent le barrage, si j'ose dire, ils passent le checkpoint. Ça me paraissait intéressant de le mentionner. Et puis, il y a quelques familles protestantes à Cholet, au 19e, même chose, si vous voulez. Ils sont là, il y a une neutralité, en quelque sorte. Et tout à l'heure, j'avais envie de vous poser la question, mais j'avais en même temps peur de dire une bêtise, en vous entendant parler de ces protestants qui restent sur une très grande réserve par rapport à leur foi, est-ce que, finalement, ils ne préfigurent pas, enfin, en la vivant, si vous voulez, la laïcité pour laquelle ils vont se bagarrer à la fin du 19e, enfin, Ferry et tous les autres, enfin, bon, ça c'est bien connu. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, mais c'est par rapport à ce, si vous voulez, à ce que vous avez dit, c'est un atterrissage un peu brutal, parce que...
Non, c'est très très intéressant. Non, c'est un éclairage tout à fait intéressant.
Merci beaucoup pour cet éclairage local et tout à fait intéressant qui s'intègre bien, je trouve, avec ce qu'on a pu dire. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Oui. D'un mot sur la laïcité, vous avez raison. Ça pose question, parce que la laïcité qui va se mettre en place progressivement. Pour moi, ça va dire de 1833. On voit les premières marches qui commencent à se monter. Ça se met en place précisément contre cette mémoire contre-révolutionnaire qui associe depuis 1820 véritablement la révolution au protestantisme qui fait du catholicisme la victime des deux. Donc, c'est dans ce jeu-là que ça se joue. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est le moment de la révolution dans ses confusions, dans ses difficultés, dans ses imprécisions, puis dans ses hésitations, et puis le moment de la constitution de la mémoire, après 1820, parce que vraiment c'est là où les choses se radicalisent, où d'un seul coup on crée vraiment des oppositions marquées qui vont durer longtemps dans nos mémoires. Bon. Mais, et donc quand on revient sur ces événements-là, dans la complexité comme vous le montrez, ben, on se rend bien compte que vraiment, on n'arrive pas à classer les choses d'une façon trop simple. C'est pas vrai. C'est dans ces jeux-là que les choses se passent. Bon. Mais je redis, parce que... j'ai rien contre une Médie, hein, loin de là. Mais on est dans des univers mentaux différents. Ça, je crois que là, il y a quelque chose... Parce qu'aussi autour de la famille Cambon, ce qui se passe à Montpellier, c'est d'une grande violence. Enfin là, on est aussi dans des zones d'affrontements qui sont extrêmement lourds. Bon, les affrontements ici ont été très violents, mais c'est sur d'autres bases.
Excusez-moi. Rejoignant ce que vous disiez à l'instant, il y a, je pense que beaucoup d'entre vous ici connaissent ce lieu. C'est un lieu qui m'intéresse beaucoup et qui me paraît tout à fait extraordinaire. Sur les hauteurs de la Tour Landry, au 13 Croix, il y a un monument commémoratif qui rappelle une victoire des catholiques sur les protestants. Et nous sommes en 1878. Et donc on est dans le contexte de l'affrontement entre l'Église et la République. La République qui, à cette époque-là, a parmi ses figures de proue, d'éminentes personnalités protestantes. Alors, un siècle plus tard, dans l'esprit œcuménique de Vatican II, une autre plaque sera posée, si vous voulez, pour corriger tout cela. Mais, donc c'est un monument qui est vraiment qui est chargé...
1878. Oui, c'est ça, c'est même pas un mot. Les Républicains sont à peine arrivés au pouvoir.
On est d'accord. Là, j'anticipe quelques années.
Oui, c'est ça.
Merci. Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de prolonger cette conversation avec nos deux conférenciers en privé. Je vous informe que la prochaine rencontre de la librairie ici, ça sera toujours en partenariat avec la SHPF et la mairie, évidemment. Ce sera le 10 octobre. On recevra Luc Dérault, qui viendra évoquer cette thématique du cycle de conférences de la librairie Jean-Pierre de Vin cette année, parler avec les protestants. Et cette parole ici se manifestera par l'écriture. Hein. On a usé de la métaphore, hein, donc parler en écrivant, hein, et parler notamment pour résister à la révocation de Lénine de Nantes. Et on évoquera le cas très particulier, notamment des protestants de Normandie, hein, comment une polémique, hein, comment des écrits de combat, hein, se sont développés justement après la révocation pour résister, hein, face à ce moment d'oppression, hein, déclenché par 1685, car 1685 est bien un moment d'oppression, il ne faut pas l'oublier. Philippe Joutard le rappelle, hein, dans son dernier livre, le roi Louis XIV véritablement agit comme un roi totalitaire, hein, contre le protestantisme français. Voilà, donc ce sera cette conférence le 10 octobre à 20h30. 20h30, oui, 20h30 ici. Et je vous remercie à tous de votre présence. Je vous rappelle que Jean-Clément Martin et Céline Borrello sont l'auteur de nombreux ouvrages. Vous en trouvez un ici sur Religion et Révolution devant vous, de Jean-Clément Martin. Un autre, le tout dernier, de Céline Borrello, qui reprend une partie de ses travaux justement sur les sermons protestants pendant la Révolution et le Premier Empire et puis le XVIIIe siècle, La République en chair. Là, n'hésitez pas donc à les consulter. Vous avez une table de littérature à la sortie de la salle. Merci à tous pour votre attention.
Donc Louis XIV est sorti.
La révocation de Lénine Nantes. Ouais. Le 14 de Bourreau, tu me viens.
Oui, si tu veux.
T'es pas d'accord?
Pas vraiment, mais bon.
Ah, moi je suis d'accord, ouais. Non, c'est le décideur. T'es pas d'accord que ce soit lui?
Oui,
qui
oui, mais enfin, voie totalitaire, je trouve que c'était. Enfin,
oui, pas, c'est. Voilà. C'est anachronique.
C'est l'anachronisme.
Mais c'est quand même vrai. Franchement, les mesures qu'il prend.
C'est votre fils.
Tu comprends
oui,
nos historiens n'ont même pas employé les mots qui sont.
Déplacés parce qu'on les compare à.
Non, mais attends, même les protestants réagissent à l'époque. Mais
évidemment, heureusement qu'ils réagissent.
Tu vois, ils trouvent ça. Ils sont des types qui sont au refuge et ainsi de suite, s'indignent quand même de ces mesures-là. C'est des mesures qui ressemblent à un régime totalitaire. Hein.
C'est dans l'ordre du temps.
Un jour ou pas.
Non, je crois pas. Non. Si on a un autre roi à cette époque qui fait ça.
1685.
Il
n'y
a personne, il n'y a aucun roi.
Oui, mais on est dans une logique de monarchie absolue, de droit divin.
Oui, mais il n'y a aucun roi. Même
c'est le système. J'ai compris, parce qu'il nous a dit que vous avez gentiment payé son paramètre.
Très très bonne conférence.
Merci. Merci, vous aussi.
Il n'y a aucun roi, si tu veux, qui empêche les protestants de quitter le royaume. Il verrouille tout.
Oui, il verrouille.
Et là, il va beaucoup plus loin que les autres rois.
C'est une logique absolue.
Ouais, c'est.
Après, tu peux voir ça comme totalitarisme.
Oui, parce qu'on a aussi l'idée de totalitarisme aujourd'hui marqué par le nazisme, mais c'est totalitaire dans le sens où c'est quand même, ça prend l'ensemble. Tu vois, ça laisse
c'est
aucun
absolu,
répit.
C'est la monarchie absolue.
Oui, bah, c'est absolu, totalitaire, voilà. Ouais,
mais non, mais après, oui, effectivement, c'est une brutalité sans nom.
Ah oui. Disons, si on n'emploie pas ce terme, si tu veux, pour moi, il y a un défaut, c'est que dans l'histoire, on ne veut pas employer des termes qui sont anachroniques, je suis d'accord, il y a un danger. Mais il y a quand même, je dirais, Jeannonnet, avec sa concordance des temps, il l'a bien montré depuis des années, il y a quand même des concordances dans les différentes époques où il y a des situations, même si le mot n'existait pas, qui correspondent quand même à des réalités qu'on a connues après, tu vois.
Oui, oui, c'est pareil que génocide, pour parler de ce qui est...
C'est pareil, pareil.
Au
Rwanda, et ainsi de suite. Pendant longtemps, on a voulu le limiter à la Seconde Guerre mondiale et aux Juifs, tu vois. Mais il y a des réalités qui sont les mêmes, tu vois.
Bien sûr, bien sûr.
Et Louis XIV, là, il va quand même hyper loin. Et Joutard le montre très bien dans son dernier bouquin.
Voilà, donc, et puis je me suis fait les bougies, il faut que je le fasse maintenant.
Il faut qu'on fasse le livre avec Jean-Clément.
Voilà, et puis, je vais sauter ça. Bah ouais, il faut lui en parler. C'est à quelle heure ton train?
18h48.
D'accord, ok.
Il y a le temps?
Ouais, ça va. Bah ouais, il faut faire.
Il va dire, j'en ai marre, c'est protestant.
Mais c'est vrai que c'est un livre qui manque.
Ah ben,
il n'y a rien.
Hein.
Il n'y a pas non plus vraiment d'études sur la démographie des protestants à cette époque-là.
Ouais, il y a Philippe Bénédicte qui a un petit peu fait. Mais plus sur le 17e.
Il va jusqu'en 1780, je crois.
Ouais, ouais.
Donc vraiment, la période révolutionnaire, tu vois. Là, même leur place économique, bon. T'as aucun protestant dans l'armée à cette époque?
Il y a une thèse sur le protestantisme et l'armée.
D'accord. Qui va sortir?
Qui est en train d'être menée par un. C'est un étudiant de. C'est un doctorant de Drévillon. Hervé Drévillon,
d'accord.
Qui est ouais. Paris, ouais. Spécialisé d'histoire.
Oui, non, mais je veux dire.
Je sais qu'il travaille sur les protestants et l'armée.
D'accord.
Dans les armées du roi.
D'accord. Donc il va aller jusqu'à. Tu sais pas?
Je sais pas.
Eh ouais, c'est ça.
Vous vendez bien la petite église encore de Janssen?
Oui, oui. Il doit nous en rester.
Est-ce que vous êtes le monsieur qui est la librairie?
Oui, voilà.
C'est ça, hein, qui s'ouvre de temps en temps comme un garage?
Ah, bah voilà.
C'est ça.
C'est,
ça.
Bon. C'est ouvert tous les du mardi au samedi, tous les après-midi. Bon.
Ouais. C'est la rue Port-Baron, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais.
D'accord.
Voilà. Le responsable est là-bas.
5 euros.
Ah oui, voilà. C'est plutôt ce monsieur-là.
Parce que moi, je suis le responsable des.
C'est plutôt ce monsieur que j'avais déjà vu.
Vous avez, moi c'est la dernière synthèse.
Parce que ça m'a touché.
Ah bah oui,
le reste
non,
en fait, le rapport que j'ai vu pour les avocats.
Parce que dans l'Ouest, je ne connais aucun avocat pour l'instant.
Je connais deux médecins. Oui,
ça, c'est 2000. Oh bon, j'ai bien le temps. La
magistrature est vraiment oui, après.
Quels étaient les ressorts que quand je faisais un assistant, on rentrait encore cette fois pour rester dans leur créneau.
Si elle annonce, je n'ai
pas entendu.
Bravo, avocat.
Et alors, dans le compte de la Sénat,
avocat de la Sénat,
le gros nœud, ça serait.
Et c'est ce qui est, ce serait sur son portrait.
Ça serait la galerie des.
Sur les ailes. La forêt sur scène.
Des députés.
Ah non,
ça on l'a
ouvert, ça m'a
dit. Mais député de la Seine-et-Chaussée, député du tiers état de la Seine-et-Chaussée, il n'y a pas marqué qu'il faisait ça.
Parce
qu'on parle aussi du quart d'heure, 793, le marché de Cholet, il y a aussi le Capitaine,
un
groupe à l'endroit, etc. Il y en a un peu plus.
Ça rentre pas dans mon schéma, l'histoire de Barrard et de Barnard. Parce que dans l'Ouest, je ne connais pas un seul avocat, ni en Normandie, ni dans l'Atlantique, à la façade atlantique, protestant.
Non, mais je dis pas le contraire. Hein.
Mais alors, par quelle astuce, il faut l'exception pour confirmer la règle, par quelle astuce ces gens étaient-ils avocats? Est-ce que, comme les Ségur, par exemple, qui avaient...
Je pense que c'était un protestantisme privé.
Oui,
qui leur permettait de passer à
travers... Ils sont deux familles protestantes.
C'est toujours ce qu'on dit. Deux familles, parce que...
Ça suffit dans les années 60-70, ça a échappé
à... Pour la Vendée que vous connaissez si bien, les grands-pères des chefs...
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça.
Ils sont protestants. Mais quand même, leurs parents ne l'étaient pas. Et eux, ils sont descendants de
Non, mais ça, c'est pas un problème.
Oui, oui. Mais Barrère et Barnave, on va toujours le dire comme ça. Toujours.
Oui, mais je vous dis, c'est... Est-ce qu'on s'illusionne pas en les disant protestants?
Parce qu'on nous dit qu'on cherche des grandes oreilles.
J'entends bien ce qu'on dit.
J'entends bien ce qu'on dit. Lequel est c'est Barrère que
tu...
Ils sont d'où, là?
Barrère est bien côté de Tarn. Et puis Barnave est Grenoble.
Oui, Dauphinois, voilà.
Ma question, c'est ça.
Oui, non, j'ai pas.
Mais en même temps,
ouais, il faut que je la ramène, ouais. Elle a son train à 18h. Oui, je ramène Céline Borello au train. Donc je serai pas de retour avant 7h30, 8h moins de quart.
Tu vois bien, les synodes provinciaux disent explicitement on arrête de tenir nos registres. Ils arrêtent de signer d'abord, pour pas qu'il y ait de noms qui apparaissent.
Et ensuite, ils arrêtent, ils interrompent parce que c'est trop risqué. Ils peuvent être accusés de fomenter des idées contre la Révolution. Donc, ils préfèrent se taire.
Parce qu'au début du 19e, dans les archives, moi, j'ai trouvé des assemblées, tu vois.
Alors, il y en a quelques assemblées, bien sûr. Il y a quelques pasteurs qui continuent, il y a quelques assemblées. Mais de manière générale, par rapport à
la pratique désert, qu'il y avait du désert, c'est...
Il y a cette chose étrange de Julien qui avait résumé au vent.
Voilà, je préfère les affaires à la ligne.
Ah,
excellent, excellent. Très, très bien.
Ça vous a plu ?
Ah oui, beaucoup. Oui. C'est la première fois que je suis installé. C'est vraiment le tout.
Ouais, c'est passionnant. Jean-Clément Martin était mon prof à Nantes.
À l'université,
ouais.
Parce que vous avez fait des études d'histoire.
Oui, oui, moi je suis historien. J'ai fait des études de théologie à Aix et d'histoire à Nantes et à Toulouse.
Oui, ça se sent.
Ouais, ouais. C'était mon prof et après mon directeur de recherche, c'était Patrick Cabanel.
Sur quel sujet ?
Sur l'écriture de l'histoire protestante au 19e siècle. Comment on est ? Un homme qui s'appelle Daniel Benoît, qui est en fait écrit sur Marie Durand. C'est notamment lui qui a découvert et qui a redécouvert la figure de Marie Durand, une femme qui a été enfermée 38 ans à la Tour de Constance, à cause de sa foi. Donc il a résisté pacifiquement.
On n'entend pas beaucoup parler d'elle.
Non, non, non.
38 ans, on les compte. Ouais,
38 ans.
Et surtout à cet âge-là, la moyenne des femmes, c'était combien du peuple ?
45 ans.
Oui, 40. Vous vous rendez compte ?
Ah ouais.
Il faut avoir visité la Tour de Constance.
Et c'est des conditions abominables. Hein.
Donc c'est en Allemagne, ça ?
Non,
c'est en France.
Constance.
C'est en France. C'est au Gros du Roi. C'est dans le sud de la France.
De Haas-Verset.
À côté, côté d'Aigues-Mortes. Non, c'est Aigues-Mortes.
La Tour Constance.
La Tour de Constance.
D'accord. Ouais.
Et il y avait un genre de femmes enfermées.
38 ans.
Vous avez des salins autour, oui, donc c'était marécageux. Il y avait des moustiques l'été. L'hiver, c'était le froid, l'humidité. Enfin bref, les paillasses étaient pourries la plupart du temps. C'était abominable.
À Montauban, là, dans les bâtiments de l'ancienne faculté, il y a aussi cet étage que Marie de Védrine, que vous connaissez peut-être,
oui,
à Montauban,
oui, oui,
m'a fait visiter quand j'étais... C'est là que j'ai rencontré Marc Rosaire, c'était
oui,
à Montauban.
Oui,
là-haut, qui est un musée.
Ça m'a pas montré, non.
Et il y a également des inscriptions, un petit peu comme le fameux résisté, des choses comme
d'accord,
ça, toutes sortes d'inscriptions, et puis des vieux livres, mais c'est pas un lieu véritablement ouvert au public, il faut le savoir.
Ah, c'est ça.
Mais ça vaut la peine de...
Là, j'ai pas vu ça.
Donc vous allez régulièrement à Aix également pour...
Oui, tout à fait, de février.
Alors c'est sur l'histoire du protestantisme.
Oui, oui, en particulier au XVIIe siècle. Oui, donc c'est le XVIIe, ce qui n'est pas ma spécialité, mais bon.
Et alors, donc sur moi, je toujours voulu avoir quelque chose sur... Sur Duplessis-Mornay, il y a une vieille biographie des années 20, etc., une édition, mais qui n'est plus disponible, un livre assez consistant, mais on ne le retrouve plus. Donc finalement, c'est celle de Poton qui est sur...
Qui est la plus récente, mais qu'on ne trouve plus non plus.
Elle
est épuisée, celle de Didier. Je lui ai proposé de la rééditer, d'ailleurs, mais je ne sais pas, il n'a jamais... Il faudrait que je reparle avec lui.
Mais rééditer dans... rééditer chez qui ?
On la fera, j'aurais envie de la rééditer chez Ophélos. C'est une maison d'édition avec laquelle je travaille. Hein. Parce que Perrin, je pense, ne voudra pas la rééditer. Ça m'étonnerait. C'était Laurent Thès qui dirigeait cette collection avant qu'il... Non, chez Perrin. Il était directeur de collection chez Perrin. Il a arrêté ses responsabilités parce qu'il a, il a perdu une grande partie de ses activités parce qu'il a été très malade. Et là, il a repris un petit peu, mais il est âgé. Je ne pense pas qu'il voudra se lancer sur une réédition comme ça. Donc je pense que ça pourrait être édité ailleurs. Il faudrait qu'il récupère ses droits. Mais c'est la dernière et c'est la dernière qui est sur le sujet. Quoi.
Mais j'ai vu en plus, c'était justement à Lausanne chez un ami, c'est une bibliothèque fabuleuse, phénoménale, Jean-Marc Berthaud.
Ah oui, Jean-Marc Berthaud, oui.
Pour aller chez lui voir l'ancien appartement, c'est phénoménal sa bibliothèque.
D'accord.
Et donc là, j'avais vu cette bibliographie qui date des années 20 et 30. critique assez consistante. Ça a l'air d'être un travail. Je lis uniquement les premières pages. Bon, bah, celle de Poton, bah, on peut la trouver en bibliothèque probablement.
Oui, oui, en bibliothèque, oui. Oui, oui, tout à fait. L'autre, peut-être je l'ai à la librairie d'occasion. Je ferai regarder en marque.
Parce qu'Habitant à Saumur, puis ça m'intéresse justement à côté de tout. Je pense que, bah, alors vous avez certainement, vous êtes beaucoup penché sur la question des monarchomaques.
Oui, bien sûr.
Et en français, il y a des bons, des bonnes études publiées.
Oui, il y a une étude, il y a une étude qui est assez complète sur les monarchomaques qui s'appelle, qui a été éditée chez Fayard. Et qui s'appelle Tuer le tyran, de Monique Cotteret.
Ah, de Monique Cotteret.
Elle a fait toute une étude assez complète. Hein. Tuer le tyran chez les Fayard. Chez Fayard.
Je me demande si ce n'est pas de ses écrits que Onfray dans son livre sur la. C'est pas ce qui s'appelle Des cadences de l'Occident, son gros bouquin. Il a tout un chapitre sur les monarques.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Et d'ailleurs, je pense évidemment. On vit sur une planète professionnelle, biologique, mentale, spirituelle. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal.
C'était pas mal. C'est exceptionnel.
Oui, parce que.
C'est d'habitude, il y a beaucoup de bêtises sur le christianisme.
Oui, énormément. Mais je trouvais que c'était pas mal.
D'accord. Tant mieux.
Au milieu de. Oui,
Mais celui-là est bien, ouais. Alors après, il y a une étude chez Drou sur les monarchomaques, les traités monarchomaques.
Alors là, sur les écrits.
Voilà.
Ça, c'est intéressant.
Voilà, voilà. Voilà, exactement. Donc il y a de tête un volume qu'on doit avoir à Paris et peut-être à Metz.
Et si.
Ouais, c'est pas donné. Là, je ne sais plus. Mais si vous avez des questions comme ça, vous voulez des titres précis, ne pas hésiter, vous écrivez directement à Alex. Il vous les cherche, il vous les fait monter à Cholet. Et voilà, ça vous évite de payer du frais de port. Éventuellement, lui, il participe à une association d'histoire, donc ce Giroir, quand il y va.
Oui, on a échangé nos données et je lui ai dit de venir me rendre visite. Ma bibliothèque calvinienne est assez, pas trop mal.
D'accord.
Beaucoup d'ouvrages en anglais aussi.
D'accord.
En allemand. Des versions de l'institution en grec, en russe.
Ah bah, vous allez pouvoir monter un musée sur l'institution de la religion chrétienne.
Avec l'exemplaire que je vous ai acheté, oui. Après ça,
Non, c'est mieux qu'on fait, parce qu'il n'y a plus grand-chose, alors que c'était une place d'académie, le rôle de Christine Morlaix, enfin bon...
J'ai rencontré le jeune pasteur, là, vous connaissez sans doute pas, de la fameuse famille du Havre, de l'ancien maire du Havre, Wichnack. Wichnack. Jeune pasteur, là, épi de F. Sympathique, mais évidemment, je ne fréquente pas cette église.
Libéral.
On est sans église.
Libéral.
Ah, mais oui, enfin, lui, il est gentil, hein, il est même. Je dois dire, ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'a pas eu de contact. On s'est rencontrés un petit peu au début. C'est ça un petit peu mal, mais je l'avais invité plusieurs fois chez moi pour essayer d'engager un petit peu. C'est intéressant quand il m'a dit que. Comme ça, il a reconnu mes études de théologie à la faculté. Démoli ma foi.
Oui.
C'est... J'ai le temps d'appeler ma maman.
Oui, c'est 18h.
18h, pardon.
Oui, donc ça
il
va.
Il me fait pas courir comme la dernière fois à Nîmes.
Ah, on l'a eu.
J'étais crevée. Il part devant et comme un fou. Attendez.
Et c'est délire.
Sympa, ils nous ont attendu.
Ce jour-là, je laisse la voiture au dépôt de minute.
Oh là là.
Je la laisse comme ça. Je plante tout le monde. Je la laisse comme ça. Je cours pour chauffer le train et tout. Après, quand je suis revenu, je me suis fait incendier. Voilà. Tout le monde, il y avait une file qui attendait.
Moi, j'étais pas. J'ai mis 10 minutes dans le train à mon aide. On ne fait plus de coups. Hein.
Non, là, on va prendre notre temps, Céline. Mais on va pas tarder, je pense. Hein. Mais t'as 5
minutes.
Oui, hein.
Minutes,
ouais. Oui.
Merci beaucoup. Hein.
Bon, merci. Merci.
Je passe demain matin pour le petit déj. À quelle heure vous déjeunez?
J'ai toujours gardé ce côté étudiant.
J'ai demandé à papa, mais je pense que
c'est pas d'accord.
Ils sont pas d'accord.
Chaque fois, je vais quitter quelque chose.
Ouais.
Voilà. Okay, on fait comme ça. Toujours bien d'avoir un public qui écoute.
Oui, puis là, il y avait du monde.
Très bien. Là, vous avez dit 16h15, finalement c'était 17h15, hein, ce qui prouve que...
Oui, on a presque parlé 2 heures.
Oui, oui, c'est
ah
vrai.
Ah oui, oui.
2 heures.
Ah ouais.
2 heures ininterrompues.
Ouais, ouais. C'est passionnant, on peut dire, non.
Ah ouais.
Et puis c'est très important, c'est vrai, je pense, idéologiquement aujourd'hui aussi, de bien comprendre ces choses, parce qu'il y a trop...
C'est une période complexe.
Il y a trop d'idées, effectivement.
C'est vrai qu'il faut complexifier aussi, hein. C'est important, hein. C'est l'intérêt de ces conférences. Hein. Moi j'aime bien titiller, donc bon, je suis là pour ça, c'est mon boulot. Hein.
Mais donc vous êtes du midi
Ah complètement, moi je suis donc varoise à la base.
Ah oui, donc vous êtes vraiment de ce milieu. Voilà. Voilà.
Ça vous
des choux comme ça là. D'accord.
Mais l'autre, il est comment là?
Il est à côté, bah, il a pas une tête particulière. Il était juste à côté de lui, son coude.
Et le rouge, là, tu as parlé? Ah, vous avez de la chance, on allait l'embarquer. Hein.
Non.
Bon, on y va. Bah, elle passe un coup de fil à...
Oui, je vais appeler maman. Hein.
Je vais prendre ma sacoche. Jean-Clément, il n'aime plus les protestants.
Il y en a marre, il y en a marre.
Non, c'est pas
ça.
Non.
Ah,
mais
c'est ça qui s'assure.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'est toujours un plaisir.
Ben, écoutez, moi, c'est
bon, on va travailler de chien. Donc, on est tous contents. Comment ?
Je vous donne rendez-vous en octobre.
Voilà.
J'ai revu un peu avec
un chien.
Moi, je cherche un révolutionnaire avec qui je pourrais travailler.
Ouais, je sais pas, je suis pas fixé encore.
Non,
mais faut que j'aille faire tout ça. Il veut pas. Dans 3 ou 4 ans, on lui reposera la question.
Oh, moi, je me voyais bien, là. Non.
J'étais
tout enthousiaste.
Voilà.
Non,
mais c'est... C'est gentil.
Mais... Non, mais franchement, je me... C'est rare, les historiens de la Révolution française qui ont cette ouverture aux religieux comme vous avez. Et pour faire un livre comme ça, il faut l'avoir. Il faut quelqu'un qui maîtrise parfaitement la Révolution. Le Chopin, c'est.
Moi, je suis marqué à vie par le communisme de l'islamisme des plongeons. J'ai lu et revu pour moi à l'histoire, en butant sur des pages parfois. J'avoue que je ne comprenais rien. Oui, c'est quand tu prends du malade, là, pardon. Il y a un homme qui m'avait arrivé à traumatiser aussi. Je n'ai pas le.
C'est quoi, c'est l'aspect théologique qui vous fait
pas? Non, c'est trop compliqué la religion. C'est trop compliqué. Ah non.
Oh, pas plus que la Révolution, quand même. Non. Les montagnards, les Girondins.
Je nage dedans,
les artistes, les...
Oui, mais parce que ça fait 40 ans. Ah oui, on s'y perd. Moi, je retiens jamais les noms.
J'ai mis 40 ans. J'ai quand même pas mettre 40 ans.
Mais on vit vieux, maintenant. Et en plus, vous fumez pas.
Oh, c'est dommage.
Non, je suis honnêtement, je ne préfère pas tout ce que votre temps.
Non, mais ce que tu dis, culture religieuse, ça marche, ça me fascine. Parce que c'est vrai que, bon, le bouquin que je vends sur le colloque de Chassis de 88, c'est génial.
C'est quoi ce bouquin?
C'est l'Europe et les révolutions. L'Europe chrétienne et les révolutions, c'est comme ça. C'est de Répol, c'est 1988. Ce livre, ça a été pour moi une Bible. Je l'ai lu, relu. Bon, il y a peu de choses sur les protestants. Mais c'est absolument génial. Absolument. C'est ce que disait Céline. Je fais court, hein, 3 ans sur la religion et la révolution. Je n'étais pas foutu de faire un livre avec ça. C'est vachement compliqué.
Bah, religion, révolution, c'est un bouquin.
Ça, c'est un colloque que j'aimais bien, mais j'étais pas tout seul.
Ouais, d'accord, mais enfin bon, quand même, vous l'avez dirigé.
Oui, avec énormément de plaisir et d'affaires. Mais un livre, c'est un livre. Oh là, c'est un livre, hein. Ça, si, il y a... Comment il s'appelle?
Et c'est quoi qui vous bloquait?
Tout. Je ne sais pas suffisamment de connaissances. Qui est-ce qui a fait un bouquin l'église et la religion et la révolution en anglais? Il y a un très bon livre sur la révolution, c'est par un anglais. Ou un anglais. Oui, je l'ai vu.
Sur révolution et...
Sur la révolution et la révolution. Mais les Français ne veulent pas entendre parler. Non,
c'est pas Timothy.
À vrai dire, il faudrait aussi des thèses, parce qu'il faudrait avoir déjà des travaux, tu vois.
Mais que font...
Il n'y a pas d'études, il n'y a pas
font,
de thèses sur la démographie.
Que font les profs?
Il faut que tu fasses faire ça à tes étudiants, Céline, il n'y a pas de thème.
Voilà.
Mais à mon avis, il faut que tu...
Il n'y a pas d'études
sur la démographie protestante.
Je suis d'accord avec toi. Il faut partir de là.
Sinon, tu vas faire une synthèse, mais c'est vrai que tu ne vas pas apporter substantiellement, tu vois.
Non, et puis sur
il y a des choses en profondeur à faire.
Le protestantisme, ben, chapeau.
Non, tu ne crois pas?
Oui, c'est ça.
Mais c'est passionnant.
C'est vachement difficile.
Merci.
Après, si les étudiants qui veulent travailler sur la révolution, ils vont à Paris. Hein.
Non, je peux vous dire.
Non, parce que c'est quand même à 18h40.
Le train?
Ouais, hein, je ne veux pas prendre de risque.
J'aimerais bien que quelqu'un me ramène quand même.
Bah oui, mais je vais vous ramener, c'est pour savoir.
Ah oui, mais je dépose Jean-Clément.
Ah oui,
ah bah non, il n'y a pas de problème.
Ah mais non, t'as deux pas. Je dépose. Il est dans la rue Porte-Baron? Vous êtes dans la rue
Porte-Baron? Oui, juste en face.
Bon, merci beaucoup. Avec grand plaisir, hein. Enchanté. C'est
ravi.
Je pars à gauche là et je remonte chez toi.
J'ai 1h10, oui. J'ai 1h10 pour aller à Angers.
Oui, mais bon, il faut aller à Angers.
Mais enfin, Alexandre, c'est à 2 minutes.
Je sais, mais je sais que parfois pour rentrer à Angers le soir, c'est compliqué pour aller jusqu'à la gare.
Ce fut un plaisir.
Bon, d'accord.
Ce fut un plaisir. Allez.
Très bien.
Bon, allez, tu fais quoi après?
Après, je vais chez mes parents. Vous êtes chez vous, là?
À la maison.
Je verrai à quelle heure je reviens.
Je salue quand même Madame Morello.
Oui, merci beaucoup.
Délire, ce bouffe. Délire, ça... tu vas voir, on va passer devant.
Bah je sais pas, écoute, moi je connais pas, donc je dis rien, hein. Juste que je veux pas courir,
Ah mince, je